Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 20h sur Sud Radio avec, comme d'habitude, le président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe Bilger.
Bonsoir mon cher Philippe.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous allez en forme, c'est parfait. Corinne Tapiero, on va pas l'appeler, si elle est quand même présidente de l'Observatoire des parents et de l'école.
Oui, oui,
donc alors, vous avez aussi un titre de présidente et élue Les Républicains de Paris 12e. Bonsoir.
Exactement, bonsoir.
Présidente, alors vous n'êtes pas président, vous, Michel Pouzol.
Ah non, je dois être un des rares français
du club de rugby, du club de rugby, comme vous êtes fan de rugby,
pas. Président de rien du tout.
Et Michel Pouzol, donc porte-parole de Génération.
Accepte même le commun.
je vous en sais gré.
Pour rester de gauche, le commun, tout un programme. À 17h30, notre premier débat, flambée de la taxe foncière, les propriétaires sont-ils des vaches à lait ? Oui, le rapport est tombé aujourd'hui et la taxe foncière explose de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg, le record étant détenu, bon, pour les grandes villes évidemment, on ne sait pas pour les petits villages, par la ville de Nantes. À 18h30, notre grand débat, c'est en ce moment même à l'Assemblée nationale. Êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire ? Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, comment vont les vraies voix ?
Les vraies voix vont bien, en dépit, en ce qui me concerne, du peu d'intérêt des deux sujets que vous avez choisis.
C'est votre choix, mais c'est pourtant les sujets d'actu chaud. Hein.
Alors que
et puis, ça concerne quand même les gens, le pass sanitaire.
Alors que vous avez été époustouflant ces derniers jours par le choix de sujets passionnants, parce que Corinne est là. Vous choisissez tout sauf des sujets politiques.
C'est quand même des sujets politiques. Le pass sanitaire, c'est politique et les impôts, c'est politique, cher ami.
Mais on risque des redites.
Ça va, Michel Pouzol, Corinne Tapiero, en forme ?
Oui, très bien.
Est-ce qu'à votre avis, je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur aujourd'hui ?
Je suis de bonne humeur ce matin.
Il y a des matins comme ça, Tristan. Oui.
Ce qui est difficile avec vous, c'est que vous commencez des fois par être de bonne humeur pour finir en étant très en colère. Donc,
et vice versa.
Là, il est indigné.
Je suis très en colère.
Voilà.
Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher.
Oui, je n'en peux plus de ce pays et même du monde entier qui devient hygiéniste. En veux-tu, en voilà. Alors, j'ai vu l'OMS a fait un guide. Un guide pour la nouvelle manière de se faire des câlins. Alors des câlins, pas faire l'amour, cher ami. Hein. Se faire se saluer en famille, entre amis, au travail. Parce qu'évidemment, on embrasse plus sa femme, ses enfants, son mari, etc. Donc alors maintenant, il y a même les câlins où la femme vient derrière vous et vous touche le crâne. C'est absolument délirant. Ça a été repris par le New York Times. C'est repris maintenant. Par les médias français, c'est totalement délirant, cette dérive hygiéniste qu'on a. Alors, on en a reçu une couche ce matin, dans le Grand Matin de Patrick Rangier et Cécile de Ménibus, lorsque Jean-Baptiste Lemoyne, qui était le secrétaire d'État chargé du tourisme, a déclaré, je cite, « que l'obligation du pass sanitaire pour les remontées mécaniques en montagne pour les vacances de fin d'année est une réflexion en cours ». Alors, maintenant, on apprend à aimer les autres sans se toucher, ça s'appelle comme ça. J'ai hâte qu'on nous fasse d'ailleurs un guide « Comment faire l'amour sans se toucher ». Ça va être intéressant, Brigitte Lay. Brigitte, si tu nous écoutes, voilà un excellent sujet d'émission. Alors, c'est sûr que là, la population de la planète risque de diminuer.
Ça existe, ça s'appelle le tantrisme, déjà.
C'est vrai.
Les rapports
j'en ai souvent entendu parler chez Brigitte.
Demandez à Brigitte, le tantrisme, moi, je vois qu'il y a l'auditeur.
Le pass sanitaire dans les remontées mécaniques, ça va être un moment croquignolé. Les gants sur le téléphone.
Enlever les gants, le téléphone, quand il fait moins 5, moins 10, ça va être absolument génial. Et je n'en peux plus de ce monde de trouillards dans lequel on vit, parce que, excusez-moi, le coronavirus, c'est pas Ebola, c'est pas la fièvre jaune, ça tue pas 80% des gens. Et quand je vois que maintenant, on nous fait des guides pour ne plus embrasser nos enfants, etc., je suis effaré.
Alors moi, j'ai entendu quand même beaucoup, beaucoup plus amusant, c'est qu'on nous a expliqué qu'on ne savait pas mettre les masques, vous souvenez sans doute à un moment.
C'était Cibet Ndiaye.
C'était
trop technique.
C'était trop technique et trop spécifique.
Par contre, télécharger une application, c'est moins technique que de mettre un masque, manifestement.
C'est ça. Mais visiblement, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut les laver. Et on peut les laver jusqu'à 10 fois. Ce qui n'était pas possible auparavant. Oui. Puisque dès qu'on les touchait, il fallait les jeter. Vous vous souvenez ?
Oui, absolument.
Donc, on évolue de jour en jour. Mais je pense qu'on est surtout inondé de masques qui pollue la planète aujourd'hui, et on ne sait pas si c'est vraiment utile.
Mais ça, votre indignation est totalement légitime, mon cher Philippe. Bientôt, on ne pourra même plus frôler ou frelon.
Vous connaissiez le tantrisme ?
Ce frelon ?
Oui, ouais. Vous connaissiez le tantrisme ?
Non, mais j'attendais que Michel l'explique en détail.
Ah ben, vous allez voir, à notre âge, c'est vrai, très, très, très pratique. On se fatigue beaucoup moins.
Non, mais qu'est-ce que c'est, Michel ?
Alors, je ne suis pas spécialiste du tantrisme, mais j'ai eu l'occasion de croiser quelques articles là-dessus. C'est une réunion par... alors, c'est un peu New Age, hein, tout ça. Hein, c'est un peu californien.
Rentrez dans les
et
détails.
C'est une réunion par la pensée de deux êtres et qui arrivent à ressentir des émotions, des sentiments. Et paraît-il, de grands moments de d'extase de cette manière-là.
C'est du porno à distance.
Non, la sexualité, l'un en face de l'autre, sans ensemble. Sans se toucher, on se met en harmonie avec la...
On n'aurait même pas le droit de jeter quelques pensées.
On a le droit de tout ce qu'on veut. On a le droit de tout ce qu'on veut. C'est un choix, le tantrisme. C'est une pratique particulière. Mais
vous avez dit des gens qui sont proches les uns des autres et qui ont beaucoup de plaisir, ça s'appelle aussi les vraies voix, non ?
Oui, bien entendu.
Bah absolument.
Vous trouvez que c'est tantrique, Philippe Bilger ? Vous êtes d'accord que ce guide de l'OMS repris par le New York Times qui arrive, c'est vraiment grotesque. Est-ce que
j'ai pas très bien compris l'histoire de toucher la tête derrière la tête.
Regardez, vous avez le schéma, je vous le ferai passer.
Parce que il est complètement fou.
Voilà, oui. Non, mais c'est surtout qu'il y a une question qu'on me touche derrière la tête. Je le dis tout de suite. Oh, clairement. Et je rappelle que j'ai fait un peu de rugby, donc ça peut avoir des conséquences.
Vous n'aimez pas qu'on vous touche la tête ?
Derrière la tête, non. Je préfère qu'on se parle de face à face. Mon épouse, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le droit de tout, bien entendu.
Vous êtes bien curieux, Philippe Bilger.
Mais Michel,
il y a de nouvelles pratiques.
Oui, tantrisme et tout ça.
Bon, eh bien, écoutez, c'était mon coup de gueule du soir, les amis. Et j'espère qu'un jour... Tiens, je vous pose une question. Vous avez tous des enfants ici. Vous leur faites encore la bise ou pas depuis le début de l'épidémie ?
Oui, maintenant.
Vous aussi.
Alors, je dois avouer qu'on a une grande fille qui a 26 ans, 27 ans maintenant. Et que pendant le moment fort du Covid, comme elle n'était pas extrêmement prudente et que nous l'étions beaucoup, mon épouse, ma fille, Victor et moi, nous ne lui faisions pas la bise à ce moment-là. Et nous faisions des câlins, des hugs, comme on dit en anglais. Mais effectivement, on a fait un... Alors aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai fait la bise à des gens pour la première fois, comme on disait bonjour avant. Et j'avoue que la première fois, ça m'a fait un choc. Et puis oui, petit à petit... Mais il faut quand même le dire. Les gestes, la vaccination avance, mais les gestes barrières sont toujours de mise. Regardez la situation qui se passe en Angleterre, pour redevenir un tout petit peu plus sérieux. Le problème de l'Angleterre n'est pas tellement la vaccination, mais l'abandon des gestes barrières.
Théoriquement, si on est vacciné, il n'y a plus besoin de gestes barrières.
Justement, dans ces cas-là, ce n'est pas suffisant. C'est ce que disent les médecins. Voilà. La vaccination nous protège à peu près à 90%, mais pour les 10% qui restent, les gestes barrières sont de mise. C'est ce que tous les médecins nous disent.
Mais dans ces cas-là, on n'a plus de vie.
D'ailleurs, ils ont été abandonnés. Puisqu'on voit une recrudescence des gastro-entérites et des bronchiolites.
Et alors pour les bébés,
cas, la situation britannique qui redevient compliquée vient du fait que tous les gestes barrières ont été abandonnés d'un coup, alors que nous, on est encore dans quelque chose de...
Et même chez nous, il paraît que ça augmente un peu.
Oui, ça augmente.
Oui, mais a priori, les réas ne sont pas saturés encore.
Non, mais...
Bien sûr. Je pense pas qu'on arrive à vivre en étant toujours et encore depuis un an et demi, et que ça peut durer encore 6 mois, un an, 3 ans,
parce que dans la peur. Non mais est-ce que vous pensez, alors c'est un truc, alors on va lancer un débat parce que vous avez lancé un débat court, est-ce que vous pensez, c'est finalement une traduction française d'embrasser tout le monde, vous savez quand les...
Bon, j'ai fait un cinéma, c'est pas la France, c'est les pays latins.
Non, mais particulièrement les Français, quand les cinéastes français, les équipes de tournage vont aux États-Unis, les Américains sont sidérés de voir tout le monde s'embrasser le matin, ça ne se pratique pas dans
beaucoup d'autres
pays.
Je ne vais plus
embrasser
les hommes,
effectivement. Donc voilà, on peut peut-être trouver un moyen
parce que ça s'appelle le mode de vie français, se faire la bise, des vraies voix, 17h12, et nous ne sommes pas des Américains, mon cher Michel Pouzol. À 17h30, notre premier débat. Flambée de la taxe foncière. Les propriétaires sont-ils des vaches à lait ? Vous êtes 94,2% à dire oui. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. Je suis réveillée vieille.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro et Michel Pouzol. Et c'est votre tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, Bah oui, j'ai dit que c'était vous en premier.
Ah mais j'avais pas entendu.
Et vous voulez pas poser la question, est-ce que ça a encore un sens de juger une femme de 96 ans qui était dactylo au camp du Stutthof ?
Ah oui, alors c'est quelque chose, ça tombe merveilleusement bien, parce qu'avec Michel et Corinne, je sais que j'aurai une réflexion collective de qualité, sans rire cette fois-ci. Voilà une femme de 96 ans qui va être jugée parce qu'elle a été secrétaire et dactylo de 43 à 45 dans le camp du Stutthof et ce qu'on appelle aujourd'hui les petites mains. Je me pose la question de savoir si, lorsqu'on est dans un tel statut, à un tel âge, est-ce qu'il est toujours légitime de juger des êtres comme ça? J'entends bien que trois autres, d'ailleurs, il y en a même un qui est sans...
Qui est centenaire, exactement.
Et j'ajoute, pour elle, elle a eu conscience tout de même du risque judiciaire, puisqu'elle a cherché à fuir, qu'on l'a interpellée et qu'elle a été remise en liberté avant de comparaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rapport entre les faits, entre l'âge et ce que doit permettre la justice. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus.
Corinne Tapiron.
Moi, je pense que sur ces crimes, il n'y a pas de prescription, donc ça va être l'occasion pour elle, vraisemblablement, de s'expliquer, de dire ce qui s'est passé, pourquoi elle est restée, pourquoi elle n'a pas pu fuir. Je crois que c'est important pour tout le monde que la vérité sorte, que la parole soit libérée à un moment ou à un autre. C'est aussi une leçon pour l'histoire. Et je crois que c'est extrêmement important. D'abord parce que ça permet de décrypter des mécanismes d'enfermement, la façon dont on se laisse entraîner dans un système qui nous échappe, auquel on ne comprend peut-être pas forcément tout. C'est le thème du livre extraordinaire qui s'appelle « Le liseur ». Mais je crois que c'est important. Je crois qu'à tout moment, ils ne sont pas prescrits, c'est fait. Donc il faut qu'il y ait un jugement. C'est très important.
Pardon, Michel.
Après, la sanction, je ne sais pas quelle sanction il y aura et quelle sanction on peut prononcer à cet âge-là.
C'est une autre question, la question. Sanction.
Mais le procès, il doit avoir lieu.
Mais le procès, pour moi, doit avoir lieu. Pourquoi ? Parce que ça fait partie. Ce n'est pas le seul sujet de l'histoire sur lequel on devrait continuer à travailler, parce qu'il y en a d'autres, celui-là étant le plus, je dirais...
Emblématique.
Emblématique du XXe siècle, et de ce que jusqu'où peut aller l'humanité. Mais il y a dans la Deuxième Guerre mondiale et la déportation de la Shoah, tout cet aspect administratif, bureaucratique, ces petites mains, justement, cette organisation, au nom d'un État, au nom d'une race, mais aussi au nom d'un État, etc. Et ça, je crois qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et il faut bien qu'on mette un nom là-dessus. Et cette dame à 96 ans, elle sait visiblement, aujourd'hui, elle sait ce qu'elle a fait, elle sait pourquoi, elle peut peut-être parler de son aveuglement et des raisons de son aveuglement, mais il faut que... Et moi, je pense qu'il faut aller au bout. Alors après, je ne sais pas pourquoi on emprisonne cette dame à 96 ans, c'est autre chose, mais on a besoin de témoignages, de redire ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est structuré, la manière dont les administrations l'ont validé, la manière dont on obéit à un chef. Parce que peut-être que cette dame était convaincue de ce qu'elle faisait, peut-être qu'elle ne l'était pas, et qu'elle le faisait simplement par obligation.
Mais justement...
Voilà. Et tout ça doit être mis dans le débat. C'est un débat... La Shoah, c'est un débat pour l'histoire, et elle n'est pas terminée. Quand j'écoute aujourd'hui, je suis désolé, un candidat à la présidence de la République qui nous explique qu'en France, Pétain a protégé les Juifs français au détriment des Juifs étrangers, faisant du révisionnisme, je me dis que franchement, la mémoire
est
fragile.
Pas du révisionnisme.
La mémoire est fragile. Et sur ces sujets-là, la bête, la bête immonde n'est pas
Philippe Bilger. Mais il y a autre chose pour cette jeune. Elle avait 19-20 ans.
Dans le micro.
Elle avait 19-20 ans. Et alors, sans doute, c'est une perversion chez moi. Je ne peux jamais m'empêcher de me demander ce que j'aurais fait, moi, dans les mêmes circonstances. Est-ce que vous pensez que sous le nazisme, cette jeune femme aurait pu dire « Ah non ». Je n'occuperai pas ce poste. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?
Il y en a qui l'ont fait. Justement, l'occasion pour elle de dire
la rose blanche.
C'est bien ça la question. La question, c'est que tout le monde ne s'est pas comporté de la même façon. Tout le monde n'a pas fait les mêmes choix. Certains sont rentrés dans la résistance, y compris en Allemagne. Certains les communistes en Allemagne ont été déportés. D'autres ont été zélés. D'autres ont basculé dans le pouvoir.
Non, mais
donc cette histoire-là, elle. au-delà de l'histoire de cette dame, elle fait partie de l'histoire du patrimoine mondial. Et je trouve que c'est très intéressant, justement si elle avait 18 ans, justement si elle avait 20 ans, qu'on comprenne le mécanisme qui a poussé cette dame-là à être dans un camp. C'est-à-dire que dans un camp, ce qu'on faisait, c'est qu'on notait des numéros, on notait le nombre de dents en or, on notait enfin, on notait les choses quand même qui étaient horribles.
Et on les voyait aussi.
Et on les voyait, on était là. Donc, c'est extrêmement important.
On va passer. Non, Philippe Bilger, sinon Corinne Tapiro n'a pas le temps de faire son tour de table.
Ah ben alors, non.
Et
alors,
c'est aussi autour de l'antisémitisme, puisque vous voulez parler de Mireille Knoll.
Voilà. Alors, ce matin, je me suis retrouvée à l'inauguration de l'allée Mireille Knoll, qui a été dévoilée dans le 11e arrondissement. Avenue de Ménilmontant. Donc évidemment, nous avons les enfants de Mireille Knoll ont fait des discours extrêmement poignants et émouvants. Ils ont parlé de leur mère. Ils ont parlé de ce qui lui est arrivé. Donc cette femme a été tuée de 11 coups. Elle a échappé au nazisme. Et elle a été tuée à 85 ans de 11 coups de couteau et brûlée. Donc c'est quand même absolument indicible. Et je suis extrêmement en colère. D'abord parce que le discours d'Anne Hidalgo était absolument indigent. Je veux dire, quand on va à une cérémonie comme celle-là, même si on est en campagne électorale, il y a un moment, il y a le temps du recueillement, il y a le temps de la campagne, on ne confond pas les choses. À aucun moment, elle n'a prononcé le mot « islamisme ». Elle nous a ressorti...
Alors, il faut rappeler que celui qui a tué Mireille Knoll
était un islamiste, puisqu'il l'a fait au nom du slogan devenu maintenant rituel « Allah », etc. Elle ne l'a pas prononcé, ce mot-là. Pire encore, elle est allée nous sortir une ultra-droite qui menacerait la société française. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui ont tué 200 ou 300 personnes en France. Donc ça m'a exaspérée. Mais ce qui m'a le plus énervée, c'est lorsqu'ils ont dévoilé la plaque. Il n'y a pas marqué le mot « victime de la barbarie islamiste ». Il y a marqué « victime innocente de l'obscurantisme ». De la même manière que toutes les plaques commémoratives dans Paris, que ce soit celle de janvier 2015, que ce soit celle de novembre 2015, devant le Bataclan, la Belle Équipe, n'importe où, c'est pour commémorer les victimes mortes en ces lieux. Mortes en ces lieux, à aucun moment il y a marqué victime de la barbarie islamiste. J'en ai assez que ces gens-là, parce que je pense qu'en ne le mettant pas, on est déjà complice de ces gens-là. Moi, ça me révolte et je demande si quelqu'un du staff de Madame Hidalgo écoutait, qu'il pense à réviser précisément toutes ces plaques et qu'il mette les choses.
Ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait agacée. Camus.
Corinne, c'est bien cette affaire où, dans l'incertitude, on a renvoyé deux personnes devant les assises.
Ils étaient deux à la torturer. Voilà, étaient deux.
Mais chacun disait que c'était l'autre.
Oui, bah ça.
Alors
c'est...
non, mais ce qui m'a intéressé, c'est que le juge d'instruction a décidé, je crois, de renvoyer les deux. En laissant la cour d'assises décider. Si je ne me trompe
c'est
pas.
C'est ça.
Mais vous avez totalement raison.
Est-ce que ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde? Parce que les terroristes, c'est pas des obscurantistes, c'est des islamistes.
Oui, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Après, en même temps, on est dans une période extrêmement compliquée sur ce sujet-là, où j'entends bien que on a quand même une certaine partie de la population qui le dit d'ailleurs, qui se contenterait pas de marquer islamiste, mais carrément islam.
Non, mais on a dit islamiste.
Non, mais. Donc je veux bien qu'on refasse une polémique sur cette chose-là. Moi, je n'étais pas à cette inauguration. Je connais pas le discours de Madame Hidalgo. Je note d'ailleurs que au-delà de votre indignation, vous avez fait un petit coup de politique sur Anne Hidalgo et la qualité de son discours. Donc là aussi, c'est une manière de récupérer ça et de le mettre
à
la
sauce.
En le faisant de la même manière, vous lui répondez en miroir et c'est la même chose. Donc on est dans cette période-là qui rentre de cette façon sur le truc. Moi, je m'en mêlerai pas parce que ça ne me tue. Je pense que aujourd'hui, il n'y a pas un seul obscurantisme. Vous avez voulu renvoyer deux ados une droite extrême qui existe, qui tue aussi des gens. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays, on vient de fêter malheureusement l'anniversaire hier de ce massacre des Algériens qui défilaient en 1961. Alors, c'est pas la même chose qu'avant-hier. Mais notre histoire est pleine de sang.
On parle d'une histoire récente
en nous faisant croire que c'est l'entièreté de l'histoire. Donc ce n'est pas l'entièreté de l'histoire. Ce que je vous dis, ce n'est pas l'entièreté de l'histoire. Effectivement, il faut se battre contre l'islamisme. Il faut se battre contre toutes les causes de l'islamisme, contre tous ceux qui financent ces réseaux. Y compris, je le redis chaque fois, parce que c'est quand même un des angles morts de nos politiques, y compris ceux qui font de l'affairisme avec des pays qui soutiennent les terroristes et qui sont bien contents de le faire, toutes tendances confondues. Donc, voilà, je pense que je suis d'accord avec vous, mais allons un peu plus loin.
Je vous ai senti, je vous ai senti très mal à l'aise, Michel.
Je suis pas mal, jamais, vous le savez bien.
Vous, pourquoi
très court, on a terminé la
pourquoi,
théorie.
Pourquoi toujours ce besoin de faire des parallélismes qui n'ont aucun sens?
Parce que les parallélismes qui ont plus de sens que les globalisations qu'on cherche à nous imposer depuis six mois,
depuis plusieurs
années ici, et je vous le dis, cette chose-là. Quand j'entends encore aujourd'hui dire que la guerre civile a déjà commencé dans notre pays. Oui, mais attention, tout ça pratique de la même profonde dérive. Et je vous garantis que ceux qui allument les feux finiront bien être plus nombreux que ceux qui les éteignent.
Vous êtes bien sur Sud Radio, Les Vraies Voix, 17h27. Dans quelques instants, notre premier débat. Flambée de la taxe foncière, les propriétaires sont-ils des vaches à lait? Eh bien, pour le moment, oui, et les vaches à lait donnent beaucoup, puisque vous êtes 93,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro et Michel Pouzol.
Je trouve qu'à l'heure actuelle, le français est constamment taxé.
Les taxes!
Faut-il pas redouter une explosion de la taxe foncière?
Ah oui, mais alors là, je suis désolé. Hein. Ça fait plus de 200 ans qu'il y a que les paysans qui payent les taxes. Enfin, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça change comme ça d'un seul coup et ça tombe dessus comme une merde sur une planche.
Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double.
Attention, moi, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème.
Mais il n'y a pas de problème alors. Vous payez.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Taxe foncière, taxe immobilière.
Il y a tout eu. Vous avez entendu Louis de Funès, notamment dans La Folie des Grandeurs et Les Inconnus. On parle beaucoup.
Camelot.
Oui, absolument. On parle beaucoup des impôts locaux en ce moment, puisque c'est la période où il faut les payer. Et s'il y en a un qui a connu une véritable flambée, c'est la taxe foncière. Selon le 15e Observatoire national des taxes foncières de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, celle-ci a augmenté de 27,9% entre 2010 et 2020 et de 11,4% sur les 5 dernières années. Une flambée qu'on doit autant à la revalorisation nationale des bases locatives, décidée chaque année par le Parlement avec la loi de finances, plus 6,1% sur 5 ans, plus 14,2% sur 10 ans, qu'aux hausses de taux décidées par les élus locaux. Une augmentation loin d'être terminée, si on en croit André Robert, délégué général des Petites Villes de France, qui a déclaré en partie à cause de la suppression de la taxe d'habitation. D'où notre premier débat, flambée de la taxe foncière. Les propriétaires sont-ils des vaches à lait? Pour le moment, vous êtes 93,7% à dire oui. Avec nous, Romain Collat, maire de Bussy-Saint-Antoine et vice-président de l'Association des Petites Villes de France. Vous le retrouvez régulièrement chez Valérie Expert. Bonsoir Romain Collat.
Bonsoir.
Est-ce que ce n'était pas prévisible, cette flambée de la taxe foncière, avec la suppression de la taxe d'habitation?
J'aurais tendance à dire qu'elle est assez inévitable. C'est un des effets de bord de cette réforme, cette disparition de la taxe d'habitation, c'est qu'on concentre sur les seuls propriétaires désormais tout l'effort fiscal, toute la dynamique fiscale. Les dépenses des collectivités, vous savez, je ne connais pas un maire qui augmente les impôts par plaisir. Les dépenses des collectivités, elles sont extrêmement contraintes. Les communes ont vu beaucoup de leurs recettes se tarir ces dernières années. Je pense notamment à la baisse de 15 milliards d'euros par an de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux communes à laquelle nous avons assisté entre 2014 et 2017. Et parallèlement à ça, on demande de plus en plus aux communes. J'étais ce matin avec l'Association des Petites Villes de France et le directeur général de la police nationale. On parlait de politique de sécurité et celui-ci nous disait que les polices municipales aujourd'hui étaient indispensables au continuum de sécurité. Les communes, par exemple, elles ont à investir dans la sécurité. C'est le cas dans la mienne. Ça coûte de plus en plus cher. Et la disparition de la taxe d'habitation fait qu'on a concentré sur les seuls propriétaires, c'est un des effets de bord, désormais la totalité de l'effort fiscal. Et donc on demande plus à une part restreinte de contribuables. Ça a pour effet mécanique, dans les années qui viennent, d'augmenter pour les seuls propriétaires les contributions.
Michel Pouzol.
Oui, d'abord, je voulais saluer mon ami et ancien collègue du Conseil général de l'Essonne, Romain Collas.
Michel.
Avec plaisir de t'entendre ce soir. Oui, il y a dans la suppression de la taxe de la taxe d'habitation quelque chose de d'assez surprenant. Moi, je suis locataire, donc je suis content de plus payer la taxe d'habitation. Ouais. Sauf que c'est un peu comme si j'allais chez vous, j'allais dire à vos enfants, je vais vous donner de l'argent de poche que je vais prendre dans le porte-monnaie de maman ou de papa. Je vais choisir le montant, je vous le donne à vous, et on n'en parle plus. Mais c'est pas moi qui paye. Moi, je fais le cadeau et je le paye pas. C'est ce qu'a fait le gouvernement en supprimant la taxe d'habitation.
Coluche appelait, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure.
C'est genre, on va faire un cadeau aux Français, mais alors c'est pas le gouvernement qui va le faire, ce sont les collectivités territoriales. À qui, effectivement, comme le disait Romain Colas, on demande de plus en plus de choses avec une dotation qui baisse. Et il y a une autre, quand même, juste une toute petite chose, parce que je ne voudrais pas que ce débat serve à opposer simplement les propriétaires aux locataires. Vous parliez de l'augmentation de la taxe, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, le taux de révision sur les loyers.
La base locative.
La base locative qui augmente de 14%, ça a une conséquence. Ben oui, c'est autant de hausse des loyers pour les locataires. Ce qui veut dire que effectivement, les locataires y gagnent puisqu'il n'y a plus de taxes d'habitation, mais quand même, on a une inflation des loyers et le problème du logement est un problème fondamental en France. Et les maires qui construisent, je sais que Romain Colas s'attaque beaucoup à ce sujet-là, ont des problématiques à régler sur ce côté-là. Donc on voit bien que c'est une politique de un peu démagogique de gouvernement Macron, mais c'est pas la seule fois où ils le font, où on fait des cadeaux avec l'argent des autres et on demande plus à des gens en leur donnant moins. C'est très compliqué à assumer et effectivement, ça se retrouve à un moment donné dans le portefeuille notamment des propriétaires, mais aussi indirectement quand même sur l'augmentation des loyers.
Romain Colas, après Corinne Tapiro.
Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'évoque Michel Pouzol. Et au-delà de la problématique financière pour les collectivités et de pouvoir d'achat pour celles et ceux qui sont assujettis aux taxes foncières, on a devant nous une bombe à retardement d'un point de vue républicain. Vous avez des communes dans lesquelles il y a une infime minorité de propriétaires parce que l'histoire de leur urbanisation a fait que c'est essentiellement du logement locatif qui les compose. Ça veut dire qu'on fait reposer le financement du service public de proximité, parce que l'impôt, il n'est pas levé par plaisir. La taxe foncière, ça finance le service public de proximité, ça finance les crèches, ça finance les écoles, ça finance la police municipale, ça finance la propreté urbaine. Vous avez des villes aujourd'hui où tout l'effort de financement de fiscalité directe, c'est-à-dire ce qu'on prend aux habitantes et aux habitants, ça repose sur 15-20% des habitantes et des habitants. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on perd complètement ce lien nécessaire républicain entre le service public, son financement et les habitantes et les habitants. Et donc c'est pas tenable dans la durée. Moi, pour avoir échangé avec des parlementaires de la majorité, ils ont bien compris que ça va pas se régler d'ici la fin du quinquennat. Mais évidemment, il va falloir revenir sur la question de la fiscalité locale. Évidemment, il va falloir la réformer pour la rendre plus juste et que chacun, à un moment, contribue à proportion de ses moyens. Il s'agit pas d'aller massacrer les gens. Mais on va pas pouvoir consacrer dans des temps infinis, tout l'effort fiscal sur une petite partie du contribuable. C'est pas acceptable.
Corinne Tapiro. Vous qui êtes élue locale.
Moi, je suis petit conseiller d'arrondissement obscur et sans grade d'opposition. Donc, ce que je vois, moi, de ce qu'on investit en termes de construction, c'est qu'inévitablement, cette augmentation de la taxe foncière, elle va avoir un coût sur tous les investissements immobiliers qui vont être faits à partir d'aujourd'hui. Donc, nécessairement, au lieu d'avoir une baisse du loyer, c'est mécanique, on va avoir une hausse, voire on va voir partir des gens des villes où c'est trop cher pour aller vers des secteurs où ce serait moins cher. Donc on va complètement à l'inverse de ce que prétendait Madame Wargon, mais je suis tout à fait rassurée parce qu'elle, elle garde quand même sa maison individuelle. Mais ce qui m'inquiète quand même dans ce pays, et depuis un grand nombre d'années, c'est pas seulement propre au gouvernement Macron, c'est depuis toujours, c'est qu'on fait toujours, on prend toujours des mesures un petit peu flamboyante comme ça pour le décorum, et on ne réfléchit pas à l'incidence que cette mesure va avoir sur un très grand nombre d'autres secteurs. Donc ça a une incidence sur la construction, ça a une incidence sur le coût de la location des appartements, mais en plus de ça, ça alimente le mécontentement. Parce que quand on parle de taxes foncières, les gens regardent, ils voient taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Je vais m'attaquer qu'à celle-là. Qui a fortement augmenté. C'est la plus connue. Mais quand les gens, ils disent, non mais ils se foutent de nous. C'est de plus en plus sale. Bon, je parle notamment pour Paris. Et c'est vrai que ça crée du mécontentement, ça crée de la colère. Et je ne comprends pas comment, à chaque fois qu'on a supprimé une ressource pour une commune, on a prétendu qu'on allait la remplacer, on ne l'a jamais fait. Ça a été pareil lorsqu'on a transféré les personnels de l'État à la région, de la commune à
quand
la région.
Quand on a transféré les routes nationales au département, c'était il y a 20 ans, ça, à peu près.
On devait donner de l'argent, mais il n'est jamais arrivé. Donc il y a un vrai problème de réflexion, de continuité, et il faut une vraie réforme fiscale, mais global. Dans son ensemble global, il faut un grand printemps de la réforme fiscale.
Romain Collat, je ne sais pas si vous aimez l'art lyrique, mais la réforme fiscale dont parlaient Corinne Tapiero et Michel Pouzol, c'est un peu comme l'arlésienne, non ?
Oui, on en parle depuis des années et des années, comme d'ailleurs la révision globale des bases locatives, parce qu'en fait, la dernière révision générale des bases locatives, elle date de la fin des années 70, qui fait que d'ailleurs, vous avez des aujourd'hui du logement social construit dans une banlieue pas trop désagréable, à une valeur locative cadastrale qui peut être supérieure à un appartement haussmannien dans Paris. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas révisé globalement les bases. Donc on a un sujet qui est éminemment explosif, hein, parce que ça veut dire si on révise les bases, il y a des effets de transfert. Mais à un moment, il faudra concrètement qu'on s'attaque globalement à la question de la fiscalité, singulièrement de la fiscalité locale, mais plus globalement de la fiscalité. On a de l'impôt sur le revenu qui a perdu en progressivité, parce qu'il a deux composantes, l'impôt sur le revenu et la CSG. Tout ça devrait être fusionné pour recréer de la progressivité et demain offrir aux collectivités locales, parce que c'est ça qu'elles demandent. Elles, encore une fois, elles n'ont pas vocation à augmenter l'impôt par plaisir. Les collectivités locales, elles ont juste besoin, on leur demande de plus en plus, de visibilité. Et une des demandes que nous formulons à l'Association des petites villes de France, c'est que dès le début du prochain quinquennat, quel que soit d'ailleurs le pouvoir dont se doteront les Français, il faut qu'il y ait une loi de programmation des finances public, local, pour qu'on ait de la visibilité, pour qu'on arrête à chaque loi de finances d'avoir des effets de transfert. Vous savez, là, le gouvernement et la majorité ont décidé de baisser de 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros sur deux ans, la fiscalité économique, alors qu'on est en plein effort de relance. Je comprends pourquoi ça a été fait, c'est à destination du tissu économique pour le soutenir, mais c'est 20 milliards d'euros qui viennent pas dans les collectivités locales, alors que ce sont elles qui font l'investissement public, ce sont sur elles qu'on demande de faire peser le gros de la transition écologique, de la transition énergétique. On a besoin de visibilité, de clarté, et d'arrêter ce concours l'épine de la proposition, pardon, mais démago, parce que je me souviens comment est née cette suppression de la taxe d'habitation. C'est Emmanuel Macron, sur un plateau télé, qui fait cette annonce. C'est comme François Hollande avec la taxe à 75%. Voilà. Et derrière, on ne sait pas comment s'en dépêtrer. Et d'ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel à la fin qui a arbitré cette affaire. Le gouvernement avait prévu que ça ne concernait que 80% des contribuables. Et à raison, le Conseil constitutionnel a dit qu'un impôt qui est payé que par 20% des gens, ça pose un problème constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Sauf que ça a fait un mistigris à 11 milliards qui s'est baladé. Le gouvernement a bricolé comme il pouvait, mais ce n'est pas satisfaisant. Et aujourd'hui, les collectivités n'ont pas les moyens de se financer dans la durée pour assurer leur mission.
Philippe Bilger, on part au 0826-300-300.
Vous aurez remarqué, Michel Collat, que je me suis sérieusement...
C'est Romain Collat.
Romain, pardon.
Michel Pouzol, c'est moi, mélange des deux. Non, alors, c'est pas grave.
Et donc, je me suis abstenu de participer à cet échange passionnant, parce qu'à vrai dire, je pourrais dire comme Jean-Yann, puisque je suis locataire, ça ne m'intéresse absolument pas de répondre à cette question. Mais plus sérieusement, j'ai appris beaucoup de choses, et je constate surtout qu'avec mes amis et vous-même, vous êtes totalement d'accord sur le fait que l'interrogation légitime de Sud Radio est valable, puisqu'en effet, une augmentation non justifiable de la taxe foncière.
On va au 0826-300-300. Il y a beaucoup de personnes de l'Essonne. Il y a vous, Romain Collat. Il y a vous, Michel Pouzol. On prend la direction de Crone, d'où nous appelle Marianne. Bonsoir, Marianne.
Bonsoir.
C'est le rendez-vous des Essoniens. On dit Essoniens, je crois. Hein. On vous écoute.
Voilà, donc c'était au sujet de la taxe foncière, pour dire que moi personnellement j'habite dans une petite maison, enfin une maison qui a été divisée en lots, donc j'habite le rez-de-chaussée, pour une surface de 16 mètres carrés, et on me réclame 410 euros de taxe foncière, alors que j'ai une voisine qui a une maison
complète. Pour 16 mètres carrés ?
16 mètres carrés, 410 euros, et on me dit que c'est le plancher de la taxe foncière. Alors que j'ai... Parce qu'on considère que 16 mètres carrés, il y a deux pièces. Donc j'ai bataillé avec les impôts pour leur dire qu'il n'y avait pas deux pièces, mais que c'était un studio, quoi. Parce que,
excusez-moi, 16 mètres carrés, deux pièces, ça me paraît vraiment petit, hein,
pour deux pièces. Non, mais c'est une, C'est minuscule, sauf que la cuisine est séparée. Donc, ils considèrent que comme le salon et la cuisine sont séparés, ça fait deux pièces. Donc, je n'ai jamais réussi à leur faire entendre le contraire. Et par contre, j'ai une voisine à côté qui a une maison de 50 mètres carrés avec un jardin qui paye 900, un petit peu plus de 900. Donc,
ah ouais, c'est hallucinant, hallucinant. Alors, merci beaucoup, Marianne de Crone. On va interroger Romain Collat, maire de Bussy-Saint-Antoine et vice-président de l'Association des Petites Villes de France. Vous parliez de réforme fiscale comme Corinne Tapiero et comme Michel Pouzol, mais vous entendez ce que nous dit Marianne dans votre département, en plus, hein, dans celui de Michel Pouzol. 410 euros de taxes foncières pour 16 mètres carrés considérés comme un deux pièces, c'est complètement fou.
C'est là où on marche sur la tête. Et malheureusement, si on en reste dans cette logique actuelle, la taxe foncière payée par madame, elle va avoir tendance mécaniquement à augmenter dans les prochaines années. Puisqu'il n'y a plus d'autres leviers fiscaux et que seuls les propriétaires aujourd'hui, qu'ils aient des petits biens ou des grands, sont appelés à financer le service public. Les services publics de proximité. Il n'y a pas de miracle possible, vous savez. Hein, on demande de plus en plus aux communes, et c'est normal. On leur demande de construire, on leur demande de créer des services publics, on leur demande d'assurer la sécurité. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Ma commune, c'est Boussy-Saint-Antoine. Ça fait 13 ans et demi que je suis maire. Je n'avais jamais augmenté l'impôt, jamais. J'ai toujours considéré que c'était la dernière des extrémités à laquelle je devais me réduire et que mon boulot, alors même que j'ai perdu 40% de la dotation globale de fonctionnement, que j'ai vu certaines de mes recettes s'effondrer depuis que je suis maire, c'était d'aller chercher en interne les ressources d'économie pour pas qu'on aille taper dans la poche des gens. Quand la plupart de mes voisins, eux, ont augmenté les impôts, mais ça, c'est des choix qui leur appartiennent, je le respecte. Cette année, pour la première fois de ma vie, j'augmente l'impôt. Et j'augmente ma vie d'élu. J'augmente l'impôt sur les taxes foncières parce que j'ai plus que ça. Et vous savez pourquoi je l'augmente ? Je l'augmente pour financer de la police municipale. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir de la tranquillité publique, si on veut avoir de la sécurité, sans police municipale, vous n'en sortez pas. Et moi, ça me coûte, en année pleine, c'est 400 000 euros de dépenses supplémentaires. C'est 400 000 euros, je suis allé chercher chez les propriétaires, j'ai pas le choix. Avant, si j'avais eu la taxe d'habitation, ces 400 000 euros étaient répartis sur l'ensemble des habitants. Et donc, la facture qu'on opposait était moins grande pour tout le monde. Là, c'est les seuls propriétaires qui payent.
Alors, pour parler du pays du Burois, parce qu'on entendait Marianne de Crone qu'on remercie de 410 euros de taxes foncières pour 16 mètres carrés, on a une auditrice très fidèle qui m'envoie, je la salue, Valérie d'ailleurs, qui nous envoie un échange avec les impôts. Alors, c'est très court, mais c'est drôle. Bonjour, c'est elle et son mari qui écrivent. Nous avons reçu un avis faisant état d'une augmentation de notre taxe foncière et d'habitation. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons? Vous évoquez une mise à jour des bases. Pouvez-vous expliciter ces bases et ce qui justifie cette augmentation? Nous vous en remercions. Réponse des impôts, attendez, c'est du très lourd. Bonjour, cette lettre fait suite à celle reçue fin janvier 2021 concernant la fiabilisation des bases d'imposition. Dans votre logement, il manquait des éléments de confort qui aujourd'hui ne peuvent pas être absents, notamment le chauffage. Une évaluation rectificative a donc été effectuée pour corriger cette anomalie. Pour information, le chauffage correspond en matière d'évaluation à une surface virtuelle de 2 mètres carrés par pièce habitable. Excusez-moi, ça existe encore les maisons non chauffées, Romain Collat ? C'est du bureau, là.
C'est l'effet de ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas eu de révision générale des bases locatives depuis la fin des années 70.
Mais c'est ça.
Donc, quand à un moment, l'administration fiscale a oublié, parce que vous avez fait une déclaration de travaux, d'intégrer le fait que vous avez mis du chauffage et que ça donnait de la valeur à votre bien et que ça avait une influence sur la valeur locative cadastrale, à un moment, elle s'en est aperçue, elle a révisé.
Un mot très court.
On s'aperçoit que ça augmente très très vite. Mais quand ça diminue moins vite. Cela dit, ça permet aux politiques de promettre des réductions d'impôts. Et puisque la question c'était vache à lait, ça me fait penser à la méthode du Boston Consulting Group. Après la vache à lait, c'est un poids mort. Donc le poids mort, à un moment donné, il ne va plus pouvoir
très
payer.
Très court, Michel.
La question c'est qu'il faut vraiment refondre cette fiscalité globalement. Et je le dis, parce que la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, la taxe foncière sont calculées de toute façon sur des bases complètement délirantes selon les communes. Il faut mettre ça à plat une bonne fois pour toutes et arrêter de faire de la démagogie avec nos impôts.
Merci beaucoup Romain Collat, maire de Bussy-Saint-Antoine dans l'Essonne et vice-président de l'Association des Petites Villes de France. Verdict sur Twitter, on parlait des vaches à lait. Les propriétaires en sont-ils avec la flambée de la taxe foncière? Vous êtes 94% à dire oui.
La vache à lait a mal au pied, dirait-on ce soir.
Absolument, ça vous dirait une chronique présidentielle de Philippe Rossi, les amis?
Oui.
Et ben, c'est pour tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro et Michel Pouzol. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Le congrès LR, c'est dans un mois et demi, et on peut dire que la compétition a déjà commencé.
Eh oui, qui va être désigné candidat de la droite le 4 décembre prochain? Qui va gagner le combat? Alors, sur le ring du congrès, on retrouve Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Éric Ciotti, Denis Paire, Valérie Pécresse. Tous ont d'ores et déjà lancé leur campagne et chacun, évidemment, y va de sa petite phrase. Vous connaissez hein, cette fameuse petite phrase à chaque élection. C'est moi qui vais gagner, c'est moi le plus fort. Tiens, jouons au jeu du qui a dit. Qui a dit ? Si vous ne me désignez pas candidat, c'est Macron qui sera réélu. Si vous me désignez candidat, je gagnerai l'élection présidentielle. Est-ce que vous l'avez ?
Barnier.
Bravo, Philippe Bilger. Xavier Bertrand, qui d'ailleurs sera l'invité demain à 8h15 du Grand Matin Sud Radio.
Un grand moment.
Avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Donc voilà ce qu'a déclaré Xavier Bertrand. De son côté, elle, Valérie Pécresse nuance un petit peu plus. La bataille des idées, c'est moi qui vais la gagner. Voilà ce qu'a déclaré la présidente de la région Île-de-France, qui, c'est vrai, ces derniers jours, détaille et défend son programme dans les médias. On la voit beaucoup en ce moment, Valérie Pécresse. Elle propose un projet de loi constitutionnelle dans lequel il y aurait des quotas migratoires par pays et qui serait voté par le Parlement tous les ans. Elle propose, par exemple, d'augmenter les salaires de 10% en baissant les cotisations sociales. Elle ne manque pas aussi hein, d'étriller Emmanuel Macron. Il fait s'envoler la dette de la France à 117% de la dette nationale. Et puis, Valérie Pécresse...
De la richesse nationale,
pardon.
Le PIB.
Et puis, Valérie Pécresse a hier clarifié sa situation. Elle a repris sa carte chez les Républicains et elle ne la rendra plus.
Je reviens aux Républicains et évidemment j'y resterai.
Et voilà, elle rentre à la maison, Valérie. Et un dernier mot pour vous dire que les 6 candidats au congrès des Républicains étaient réunis ce matin, oui, invités par Christian Jacob pour un petit déjeuner.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral.
Alors oui, peut-être que certains ne voulaient pas y aller à ce petit déjeuner, mais quand même, il fallait montrer que la photo de la droite était unie, voilà, au moins pour les images. Des photos ont été prises ce matin, je vous les donnerai. On voit une droite très unie, voilà, il y a des sourires. Tiens, je vous propose de jouer une dernière fois au jeu des pronostics. Qui, selon vous, va l'emporter le 4 décembre prochain ? Philippe Bilger. Qui, selon vous, va l'emporter ?
Je mouille.
Pas votre choix.
Je mouille. Ouais, Xavier Bertrand.
Bon, très bien. Xavier Bertrand. Corinne.
Barnier.
Michel Barnier. Ouais. Beaucoup le pensent, hein, d'ailleurs, hein, Michel Barnier. Michel Pouzol.
Moi, j'ai l'impression...
Sandrine Rousseau.
Non. j'ai l'impression, vu de loin, que Xavier Bertrand, pour l'instant, fait à peu près un sans-faute à droite. Donc,
ouais.
Xavier Bertrand. Mais enfin, c'est pas l'idée. C'est les électeurs qui votent.
Mais c'est les militants qui
les
votent.
Les militants qui votent sur une thématique, ils ont trahi.
Oui, mais
moi, je me méfie, c'est pour ça que je pense que ce sera Barnier.
Ils peuvent dépasser ça.
Dans le micro.
Ils peuvent dépasser ça, les militants, et choisir celui qui va gagner.
Je pense qu'on va avoir une vague de sondages dans les jours qui viennent à quelques jours avant, qui vont essayer de plier le match avant.
Et si c'était Valérie Pécresse ? Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, on entend cette petite musique, Valérie Pécresse. Personne n'y croit pour le moment. Et si c'était elle, est-ce que vous y croyez, vous, Corinne Tapiro ? Dans les médias, je vous le dis, hein, ces derniers jours, c'est elle qui a le plus de fond. Hein.
Je pense que tout est possible. Hein, les candidats... appartiennent à la même écurie, entre guillemets, ils ont le même parcours idéologique, on a les mêmes valeurs, on a partagé les mêmes combats. À mon avis, il n'y a pas une différence fondamentale entre les uns et les autres. Peut-être Denis Paire, que je ne connais pas du tout par rapport à tout ça, mais je ne vois pas
pour que mon ami Philippe Juvin, Éric Ciotti et Denis Paire n'aient pas l'impression d'être désavantagés, ils existent. Hein,
bien sûr,
la liste des
bien sûr.
Mais ils existent
bien
aussi,
sûr.
Et comme dirait le proverbe, c'est à la fin du bal qu'on paye
exactement.
Les musiciens. Philippe, on se retrouve demain ?
Oui, demain, je vous parlerai peut-être d'Éric Zemmour, parce qu'il y a une info importante qui vient de tomber. Bah oui, voilà.
Ah bon ?
Oui.
Il est candidat.
Presque.
Il était où ?
Il le dira
à 18h. Ah bah on verra après. À 18h30, notre grand débat. Êtes-vous, c'est au Parlement aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été ? Le moins qu'on puisse dire est que vous n'êtes pas particulièrement enthousiaste, puisque vous êtes 4,6% à dire oui, donc 95,4% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie, Corinne Tapiero, élue Les Républicains de Paris 12 et président de l'Observatoire des parents et de l'école, et Michel Pouzol, porte-parole de Génération. À 18h30, notre grand débat. Êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été? Et pour le moment, vous êtes 4,7% à dire oui, vous étiez 4,6% juste avant le journal. Ça va les vraies voix?
Très
en
bien.
En forme?
Oui, tout va bien.
Un petit tour de table de notre ami Michel Pouzol, ça vous irait?
Ah, sûrement.
Eh ben, c'est parti.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous, vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Et vous voulez parler d'une grève un peu originale, la grève des parrainages.
Oui, la grève des parrainages, c'est le pacte de Romainville qui a été signé ce week-end par un certain nombre d'élus locaux de gauche et écologiques qui ont décidé de n'accorder leur parrainage à aucun des candidats écologistes ou de gauche s'il n'y avait pas une union à gauche de ces candidats-là. Donc voilà, c'est une démarche que je trouve assez innovante et intéressante, parce qu'elle dit... Elle dit en gros quelque chose de la situation actuelle. Vous le savez, la gauche est morcelée, pour rester sur un mot pas trop désagréable, en plusieurs candidats. On voit que les sondages sont assez catastrophiques globalement, que si on réunissait toute la gauche ensemble péniblement, elle arriverait peut-être à frôler les 20%, mais on est très très loin de ces scores historiques, et que tout le monde parle de l'union. Je crois qu'il y a beaucoup de candidats, si vous écoutez un peu, qui n'ont que ce mot à la bouche, il y a beaucoup de militants qui le demandent, et que dans le concret, les choses n'avancent pas. Donc, cette initiative des élus disent, voilà, arrêtons d'être la gauche la plus bête du monde, et provoquons l'union, les gens la veulent, etc. Et ça a un sens d'autant plus important, on en parlait hors antenne, que la situation globale, le paysage global, alors il faut être très très prudent avec les sondages et avec ce que sera la situation politique dans quelques mois, d'ici janvier, on y verra un peu plus clair. Mais aujourd'hui, si on se fie aux sondages, le taux d'entrée, le niveau d'entrée au deuxième au second tour baisse beaucoup du fait de l'explosion du phénomène Zemmour, qui divise les voix par deux quasiment aujourd'hui de l'extrême droite. Marine Le Pen en est la première. Donc, on peut estimer que quelqu'un qui va faire 18%, 19% au premier tour peut se retrouver potentiellement au deuxième tour de cette élection présidentielle. Et si on fait un calcul sur la base des sondages aujourd'hui, on a Jadot et Mélenchon qui, sur les sondages, basculent entre 9 et 11. Une fois c'est l'un qui est devant, une fois c'est l'autre. Anne Hidalgo doit être entre 5 et 7. Arnaud Montebourg autour de 5. Roussel 2. Si on additionne tout ça, alors en politique, 1 plus 1 fait rarement 2. Faut être extrêmement prudent. Mais en tout cas, ça ouvre une perspective politique potentielle à cette gauche-là. Mais surtout, ce que je voudrais dire, pourquoi ce point-là est important, et c'est un message que je lance aux candidats, tous ces candidats de gauche, moi je soutiens plutôt Jadot, mais je le lance à toutes et tous, si cette gauche-là a vraiment conscience de l'urgence écologique, de la catastrophe qui est devant nous, de ce qu'il va falloir faire dans le fond. Si cette gauche-là se préoccupe vraiment des 10 millions de pauvres qui vivent en France, des 5 millions de chômeurs, des 5 millions de personnes qui aujourd'hui travaillent et pourtant souffrent au travail et n'arrivent pas à boucler les fins de mois alors qu'ils ont un travail parfois à temps plein. Si ces gens-là se préoccupent du sort de ceux qu'ils sont censés défendre, alors ils n'auront aucune excuse à ne pas s'unir à terme. Et s'ils ne le font pas, ils seront responsables à part entière de la situation. Donc je pense que cet appel est pour nous, en tout cas, gens de gauche, important.
Philippe Bilger, dans le micro.
Mais Michel, je comprends bien que c'est une démarche très courageuse et intègre de dire on ne donne pas notre parrainage à l'aventure. Pour le visage qui nous plaît, la personnalité qui nous séduit, Je me demande si on n'aurait pas pu faire la même chose d'une certaine manière aux Républicains, même si je crois beaucoup à l'utilité de la fausse primaire qui va avoir lieu le 4 décembre. Voilà. Mais c'est bien ces élus de Romainville. Il y a des gens qui...
Ils étaient plusieurs dizaines, mais je ne peux pas vous dire le
signateur. C'est le PAC de Romainville.
C'est ça.
Moi, je lis dans cette initiative le désespoir d'une certaine gauche qui s'est perdue et d'une gauche qui sent qu'elle ne sera pas au deuxième tour, quoi qu'il arrive, puisqu'elle est morcelée. Mais lorsqu'on regarde les quatre candidats que vous avez évoqués, ils ont en commun peut-être d'être de gauche, mais ils n'appartiennent aucun à la même gauche. Et on a vu dans les grandes villes de France cet apanage, cet alliage, ou cette, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais entre les Verts, le PS... c'est même pas un aéropage, c'est un attelage un peu fait de briques et de brocs, qui ne peut pas s'entendre. On le voit par exemple à Paris. Il n'y a pas un sujet sur lequel il n'y a pas de conflit. Et je ne suis pas certaine qu'on ait intérêt avec un candidat qui aurait été choisi... parce que il faut faire plaisir. Effectivement, je comprends que les militants se sentent orphelins. C'est un peu le cas de tous les électeurs aujourd'hui et qui sont d'ailleurs tentés vers un consumérisme politique, hein, où ils veulent une réponse politique comme celle d'une entreprise à chacun de leurs problèmes. Je pense qu'ils sont tentés effectivement par ce choix d'un candidat unique. Mais on n'est plus à l'époque de Mitterrand. Il n'y a plus de vrai chef et ça ne marchera pas.
Alors, très court pour terminer, je note que les candidats dont j'ai parlé de gauche se battent aussi souvent pour la 6e République, et ils seront obligés de le faire. Regardez ce qui se passe en Allemagne. On prend souvent l'exemple de l'Allemagne. Aujourd'hui, les partis allemands sont bien obligés de s'entendre parce que sinon ils ne peuvent pas
gagner la vraie voix.
Et donc, je pense qu'il faut. Eh bien, justement, je pense que ça serait le premier point vers cette réforme constitutionnelle qu'on demande à gauche, en tout cas.
Les vraies voix, est-ce que ça vous dirait de faire un énorme cadeau?
Un énorme
cadeau avec Sud Radio, je vous dis ce que c'est. Un séjour pour deux adultes et deux enfants, trois jours de nuit, plus petit déjeuner, au parc PortAventura et Ferrariland. C'est entre Barcelone et Tarragone. C'est un parc absolument génial. Je vous donne deux attractions qui font rêver. Une tour de 100 mètres de haut. On peut aller à 4 dans une nacelle. J'irai bien avec vous, les vraies voix. Vous faites 86 mètres de chute libre. Et vous allez freiner en 14 mètres.
Non, non,
vous
non, pas. En bas.
Il n'y a que Philippe Ligère qui
ira avec moi. Les enfants ont moins de 12 ans, je crois.
Non, là, ils y vont pas, les moins de 12 ans. Mais il y a plein de jeux pour eux.
Si vous embêtez 4
et vous avez un autre jeu, le Full Use Baco, c'est une catapulte de porte-avions qui vous propulse. C'est absolument génial. Et donc, vous pouvez gagner ça avec Sud Radio et PortAventura. Philippe Ligère, un chiffre entre 0, 1 et 10.
1, 10, 9.
Corinne Tapiero.
8.
17. Michel Pouzol.
5.
22. Le 22e appel au 0826-300-300. Gagne un séjour pour deux adultes et deux enfants. 3 jours de nuit et petit déjeuner pour PortAventura et Ferrariland. C'est parti. Et alors là, il va falloir faire très vite. 22e appel 0826-300-300.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Ligère, Corinne Tapiero et Michel Pouzol. Trois femmes n'ayant pu participer au concours de beauté Miss France et oser le féminisme intentent un procès aux sociétés Endemol et la société Miss France, organisatrice du concours, pour non-respect du code du travail et discrimination. Nous sommes en compagnie d'Ursula Lehmann, porte-parole de l'association Oser le féminisme. Ursula Lehmann, bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, sur quoi attaquez-vous les organisateurs ?
Alors tout d'abord, en fait, les participantes au concours Miss France passent un mois et demi de leur vie consacrée au concours. D'ailleurs, Alexia Laroche-Joubert l'a dit dernièrement dans les colonnes du Parisien. Et pourtant, elles n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas de salaire. Donc ce qu'on demande en premier lieu, c'est la qualification de la relation de travail en contrat de travail, comme ça a été le cas dans l'affaire Mister France et un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2013 qui a déterminé qu'il y avait relation de travail et qu'il devrait y avoir contrat de travail pour un candidat à Mister France. Donc le raisonnement est le même ici. Et une fois qu'il y a application du droit du travail, il doit y avoir retrait de toutes les clauses discriminatoires puisque le droit du travail interdit toute forme de discrimination liée aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille, à la grossesse, au physique, aux opinions politiques, etc.
Mais il y a des métiers où il y a une taille obligatoire pour être hôtesse de l'air ou steward, c'est le cas ?
Alors, il y a des jurisprudences, effectivement, en fonction des métiers, ça va être proportionnel au but. Par exemple, si on prend, en l'occurrence, Miss France ici, c'est un spectacle. Donc, le critère pour recruter, ça va être la capacité à danser. Mais en aucun cas, le fait qu'une femme soit veuve ou célibataire ou mariée.
Philippe Bilger.
À votre avis, et pardon si je vous offense, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un féminisme dont la cause est évidemment légitime place un petit peu ses combats partout, sans les hiérarchiser et en mêlant l'accessoire à l'important ?
Alors, le féminisme, c'est une lutte globale et tout est lié, en fait. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences, le continuum du sexisme. Le fait que chaque année, on consacre collectivement plusieurs heures à classer, à noter des femmes, à commenter des femmes sur leur physique, participe au sexisme ambiant et participe au fait que les femmes sont discriminées dans la société.
Corinne Tapiro, la seule femme du plateau, d'ailleurs, ce soir.
Moi, je suis. Je ne pense pas que ce soit comme ça que les femmes sont discriminées dans la société. À mon sens, elles sont discriminées sur l'égalité des salaires. Et ça, ça me paraîtrait le combat le plus important qui devrait être le vôtre. Mais je ne juge pas vos choix. Je suis un peu surprise de cette mesure. Alors, je pense que vous devez considérer que c'est un peu comme les jeux télévisés. Mais lorsqu'on fait un concours de danse, par exemple, ça s'étale sur plusieurs semaines. Pour faire ce concours de danse, il faut d'abord être inscrit dans un club. Il faut savoir danser. N'importe qui ne peut pas aller faire un concours de danse s'il ne sait pas danser. Un concours hippique, c'est de la même manière. Donc, il y a forcément une démarche volontariste de chacun des candidats. Et je ne suis pas certaine qu'il y ait tellement de candidates qui aient été évincées de ce concours, parce que c'est quand même, ça participe d'une démarche préalable, avec une première sélection dans les régions, etc. Donc je ne comprends pas très bien votre combat, je vous avoue.
Vous parlez d'égalité salariale, justement, depuis 2013, les candidats à Miss France doivent être payés, puisque la jurisprudence a décidé ainsi. Pourquoi les candidates à Miss France ne devraient pas être rémunérées et ne pas avoir de contrat de travail ? Parce que c'est des femmes, alors que les candidats à Miss France sont eux des hommes, donc en l'occurrence on est bien sur un sujet d'égalité salariale. Et effectivement, elles passent un mois et demi à effectuer des prestations, à effectuer un spectacle, à mettre en avant des produits et des services. Miss France est une émission à but commercial qui génère des millions d'euros. Il est normal qu'elle soit rémunérée.
Michel Pouzol.
Oui, moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Je crois qu'il y a eu des précédents dans la télé-réalité, hein, il y a quelques années, oui. où les candidats ont aussi porté plainte de la même manière et ont été requalifiés en travailleurs.
Ce qui était, je crois qu'ils devaient être requalifiés en CDD.
Exactement, ce qui était complètement logique. Donc moi, je trouve ça... on verra d'ailleurs à l'issue. Bah, je trouve que ce serait intéressant, effectivement, quand on consacre un mois et demi à une activité complète, eh bien, il n'y a pas de raison, effectivement, et que des gens, soyons clairs, que des gens en tirent un profit assez important, parce que c'est une émission de télé, donc il y a du profit, il y a de la publicité, il y a beaucoup d'argent et de sponsors. Moi, je trouve ça plutôt que ça va dans le bon sens. Après, moi, je ne suis pas un passionné des Miss France, je vous avoue, mais passer une soirée à choisir des femmes sur simplement leur allure, leur jeunesse, etc., ce jeunisme, j'avoue que ça me semble... assez dépassé, assez peu en phase avec... moi, j'ai une fille de 18 ans, une de 25 ans, assez peu en phase avec leurs préoccupations globales et la préoccupation de cette jeunesse-là qui veut être reconnue autre chose que pour une allure. Et globalement, je veux dire, moi, je suis pas un fan de ce genre de choses et je pense que, on peut s'en passer tranquillement.
On peut être belle tout de même.
Oui. On a le droit, pour répondre à Michel Pouzol.
Est très subjective.
Alors, en l'occurrence, les critères qui sont donnés par Miss France ne sont pas du tout uniquement sur l'apparence physique. Pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être ni marié, ni paxé, ni même veuve, que souvent l'argument qui est avancé, c'est celui des enfants. On peut très bien être veuve et ne pas avoir d'enfants. Donc, en réalité, les critères ont pour but de mettre en avant ce fantasme, en fait, de la jeune fille à marier, ce fantasme, encore une fois, de la jeune fille vierge, et ce fantasme-là, il est complètement dépassé, complètement rétrograde et sexiste.
Merci beaucoup, Ursula Le Guin. Vous êtes porte-parole de l'association Oser le Féminisme. On va suivre de très près ce que donne le procès. Ce sera dans quelques temps, parce que c'est au conseil de prud'homme, et on peut dire que dans ce domaine, ils ne sont pas fondamentalement pressés. Nous avons un gagnant, les vraies voix.
Ouais.
Direction Valence, bonsoir Didier.
Bonsoir à vous.
Eh bien, vous avez été le 22e. Alors, vous pouvez remercier les vraies voix qui ont chacun donné leur chiffre. Appelez le 0826-300-300 et vous avez gagné un séjour pour deux adultes, deux enfants, trois jours, deux nuits et petit déjeuner pour Port Aventura et Ferrari Land. Beau cadeau.
Bye. Bah écoutez, c'est super, merci, c'est la première fois que je joue un jeu comme ça, et je dis, je vais tenter. Coup de bol, et puis j'allume la radio, j'étais sur Sud Radio, alors vraiment coup de bol encore. Donc je suspecte ma compagne de vous écouter, ce qui est très bien du coup.
Vous avez une compagne qui est parfaite.
Je lui dis toujours, elle ne va pas me croire, elle dit que je mens. Mais bon, et pour les gamins c'est génial, et le coup de la catapulte, j'ai grand avenir.
Alors je vous donne le nom de celui avec la catapulte, c'est Furious Baco. C'est franchement une sensation. Par contre, ils ont quel âge, vos enfants ?
11 et 6.
Alors, 6, non, la chute libre de 86... Non, 11 et 6. Par contre, si vous voulez vous faire, chacun son tour avec madame, la chute de 86 mètres, là, je peux vous dire que la sensation est absolument exceptionnelle. Là, ça s'appelle Huracan Condor.
Ok, je suis un peu pétochard, je vous avoue, sur le coup, mais je la regarderai faire parce qu'elle aime bien ça, elle.
Eh bien, écoutez, c'est madame qui ira. Bravo, Didier de Valence. Je rappelle que vous avez gagné avec le parc Port Aventura et Ferrari Land et Sud Radio un séjour pour deux adultes et deux enfants, trois jours de nuit et petit déjeuner. Bravo à vous. Et vous pouvez vraiment faire un beau bouquet de fleurs à votre femme qui a quand même mis Sud Radio sur la radio. Vous avez entendu et vous avez gagné.
Alors, on ne peut pas envoyer des candidats politiques sur la, sur la catapulte non, parce que moi, j'ai une liste. Si vous voulez, on leur envoie des billets.
Non, mais vous êtes bien ceinturés. Vous inquiétez pas.
Mais Michel, on ne vous ferait pas revenir.
Dans quelques instants, notre grand débat. Êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été ? C'est comme les températures à partir de demain, ça te baisse. On était à 4,7, 4,6, 4,5. Et maintenant, on est à 4,1% à dire oui. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro et Michel Pouzol. Ah, ça nous rajeunit pas. Plastique Bertrand, vous rappelez, qui chantait Stop ou encore. Comme la vignette auto, il devait être provisoire et s'arrêter le 15 novembre dernier. Cara, pourtant, et comme l'avait promis Jean Castex, il est aujourd'hui question de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Une mesure qui crée des réactions plus musclées qu'en juillet dernier des oppositions, puisque plus de 380 amendements ont été déposés en première lecture. Un vote qui risque d'être tendu, puisque les députés joueront leur réélection dans 8 mois. D'où notre grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été ? Sermenté, vous êtes 4,2% à dire oui. Avec nous, Fabien Di Filippo, député LR de Moselle. Bonsoir.
Bonsoir.
On a l'impression, en voyant le nombre d'amendements, que contrairement à juillet dernier, l'opposition s'est réveillée.
Moi, je faisais déjà partie l'été dernier des gens qui avaient des oppositions de principe sur l'application de ce pass sanitaire. Je vous avais dit la dernière fois que les griefs s'étaient vérifiés puisque la contamination avait baissé concomitamment à son entrée en fonction, donc il n'avait eu aucun intérêt. Mais là même, on a d'autres données qui nous donnent du recul. On voit que les contaminations, depuis quelques jours, remontent. C'est le cycle normal, il y a une vague. Comme on le mesure tous les jours, ça remonte. Et ce qu'on a depuis le 30 septembre, c'est l'élargissement du pass sanitaire aux 12 ans, 17 ans. Ça veut dire que si l'on est très cynique, on pourrait considérer que l'extension du pass sanitaire a eu un effet négatif sur la trajectoire des contaminations. Pour moi, une chose est sûre, les contaminations évoluent de manière liée à la vaccination, mais indépendante de l'application du pass sanitaire. Donc déjà, pour des raisons sanitaires et techniques, ce n'est pas une bonne chose de prolonger. Je reviendrai tout à l'heure sur le problématique démocratique que ça peut poser.
Philippe Bilger.
Autant le gouvernement a commis de graves erreurs au début de l'année dernière et dans la suite, qu'il a connu de relatifs succès avec les vaccins. Est-ce que, comment dirais-je, monsieur le député, moi j'ai tendance, alors que j'essaye d'être un citoyen relativement réactif dans beaucoup de domaines, là j'ai tendance un petit peu à me laisser aller et à faire confiance à ce qui est prévu par ce gouvernement dont il me semble qu'il n'est pas trop mauvais dans cette gestion-là. Est-ce que vous me trouvez naïf ou un peu inconscient ?
Moi, je trouve que le gouvernement a beaucoup subi...
Il va peut-être vous dire les deux.
Oui, sûrement.
les choses, les deux, ça me paraît être... Mais moi, je ne suis pas un adepte du « en même temps ». Et je sais que vous n'êtes pas naïf. mais comme nous tous, vous voyez la trajectoire des contaminations baisser, vous dites, bon, bah, ça ne peut pas être pire avec le pass sanitaire, donc continuons un peu. Le problème, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est que nous, parlementaires, pour rediscuter de ces mesures-là, on est mobilisable quasiment tous les jours, j'ai envie de dire. Si on nous appelle avec un vote obligatoire, même le week-end, on revient à Paris. C'est notre fonction, il n'y a pas de souci. Là, on va au-delà des prochaines échéances démocratiques, au-delà des élections présidentielles, au-delà des élections législatives. Comment on peut expliquer cette prolongation sans contrôle parlementaire de l'état d'urgence et du pass sanitaire, alors qu'on ne sait pas dans quelle mesure, on sait une seule chose, c'est que les vagues, si de nouvelles vagues il doit y avoir, elles n'auront plus jamais l'ampleur qu'ont eu les premières vagues, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les trois quarts des Français sont vaccinés. Ça nous permet d'éviter la plupart des cas graves, fort heureusement. Donc, cette restriction des libertés de nos concitoyens, je vous donne juste un exemple concret. Elle pousse un certain nombre d'entre eux, parce que eh bien, les tests sont payants notamment, à repousser des soins ou à ne pas aller faire des dépistages à l'hôpital sur un certain nombre d'autres maladies. Donc, elle pousse un certain nombre de nos enfants à ne pas avoir repris de licence là, sportive ou culturelle à la rentrée. Ça veut dire qu'il y a des effets, des dommages collatéraux de ce pass sanitaire. Et pour ces raisons-là, vous voyez la situation sanitaire. Moi, je vois les dommages collatéraux. Eh bien, je vous dis, il faut être très, très prudent parce que le bénéfice du pass sanitaire est très, 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 très réduit. Mais par contre, ces dommages collatéraux, ils peuvent être importants à moyen ou à long terme.
Michel Pouzol.
Oui, je voudrais juste d'abord juste rappeler que les vrais dommages collatéraux, c'est ceux de la pandémie quand même. Mmh. Moi, je viens de faire mon troisième vaccin aujourd'hui, mon troisième rappel, et j'ai autour de moi de plus en plus de gens qui ont été atteints gravement, voire qui en sont morts, des Covid longs, donc faut, y compris des jeunes, des sportifs, donc il faut quand même rappeler cette donnée, elle reste réelle. On est encore à une cinquantaine de morts par jour, enfin tout ça n'est pas tout à fait terminé ni derrière nous. Mais si j'ai bien compris, alors le pass sanitaire, j'ai une opinion par contre très, très modérée sur son efficacité, effectivement, je comprends monsieur le député, mais si j'ai bien compris le débat en jeu, et là je fais appel à ma mémoire d'ancien parlementaire, l'idée du gouvernement, c'est de se donner la possibilité de réutiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été. Ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait pas un vote maintenant, puisque à partir de février, les travaux de l'Assemblée seront suspendus. Et si besoin était, à ce moment-là, en crise d'urgence, d'avoir un pass sanitaire, eh bien, la majorité serait paralysée du fait des institutions. Donc, je croyais avoir compris que c'était ça le vrai sujet, en fait, et que la possibilité, que l'idée, c'était pas de reporter directement le pass sanitaire jusqu'en juin, mais de s'en offrir la possibilité. Le cas échéant,
Fabien Di Filippo.
Oui, la session parlementaire ordinaire, une année d'élection présidentielle, s'arrête à la fin février. Là-dessus, vous avez raison. Par contre, il peut y avoir une session qui est rappelée, un ordre du jour qui est convoqué, jusqu'à tout moment, jusqu'à la fin de notre mandat. Nous sommes députés depuis le 20 juin, deux jours après l'élection de 2017. Nous sommes députés...
Oh, je m'en rappelle, croyez-moi.
Ah, oui. Nous sommes députés jusqu'à 19 à minuit. Donc ça veut dire que si le Parlement est convoqué en session extraordinaire à ce moment-là, nous pouvons revenir à tout moment pour délibérer sur des textes d'une urgence qui se serait accrue d'ici là. Donc s'affranchir de ce contrôle démocratique et parlementaire, c'est un confort pour le gouvernement, mais ça pose un problème, surtout pour des mesures aussi attentatoires aux libertés.
Corinne Tapiro.
Moi, je n'arrive pas à avoir d'opinion sur le bien fondé de ce pass sanitaire et de son extension jusqu'en juillet. Alors, je comprends les contraintes techniques qui existent. Et Fabien Di Filippo l'a bien dit, hein, ils peuvent être convoqués à tout moment pour en rediscuter. Ce qui me gêne le plus dans cette gestion du Covid et sur cette période qui va s'étaler du 15 novembre jusqu'à la fin juillet, c'est qu'on a remplacé le débat démocratique par le débat sur les chaînes d'info. Et ça, c'est parfaitement insupportable. D'abord parce qu'on a des députés qui sont sollicités à tout moment. Je crois qu'il y a une inflation législative qu'on a rarement vue ces 20 dernières années. Ils sont des séances interminables dans les hémicycles. Je ne comprends pas pourquoi on les prive de ce débat et surtout pourquoi on n'a pas mis, par exemple, une clause de revoyure en se disant on le met en place, on fait un point, je ne sais pas,
le 15 septembre.
Le 15 novembre.
Non, mais je parlais pour celui qui a été.
Voilà, c'est ça, on fait un point. Quel a été le bien fondé? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on vous demande le pass sanitaire, mais quand on vous a vu 10 fois dans la même semaine, on ne vous le demande plus. Donc c'est vraiment un outil, comme a dit Gabriel Attal, c'est une boîte à outils. Je suis désolée, ce n'est pas une boîte à outils. C'est quelque chose qui est extrêmement contraignant. Vous n'avez plus de batterie, vous ne pouvez pas rentrer dans le truc. Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas vaccinés. vous n'avez pas de batterie, vous ne pouvez pas vous connecter. C'est extrêmement... c'est agaçant. Vous montrez votre passe sanitaire à quelqu'un qui le met sur une application, il va y avoir une lumière verte, ils vous disent « Ok, vous pouvez rentrer », mais c'est quoi le... Enfin, je ne comprends pas le but de cette démarche, qui n'est pas, à mon sens, très... très compréhensible des Français. Elle est agaçante.
Je crois que c'est Gabriel Attal qui a dit que c'était très simple et que les Français approuvaient. C'est quand même plus compliqué, à mon avis, que mettre un masque. Hein.
Je pense aussi.
J'ai bien compris que les Français n'acceptaient pas ça. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup de mal à voir dans le pass sanitaire une atteinte ultime à nos libertés, à notre droit de circulation, à une contrainte.
Non, parce qu'il y a peu de gens, finalement, qui ne sont pas vaccinés.
Incroyablement difficile à assumer.
En revanche, pour les jeunes, c'est chiant. 12 ans, 17 ans, c'est
très... C'est un peu pénible, mais vous savez, moi, je connais beaucoup de gens qui vont au restaurant une seule fois par an parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller deux, qui ne vont pas
mais
en
pas
vacances.
Voilà, il y a un supermarché.
Et croyez-moi, ils ont des contraintes à assumer au quotidien bien plus importantes et donc tout le monde se fiche.
Fabien dit Philippot, j'ai l'impression en entendant les vraies voix, notamment Michel Pouzol, que finalement, faut s'y faire. Maintenant, on vous contrôlera partout et toujours dans tout ce que vous faites.
Quand on n'a pas le choix, on s'adapte.
Non, mais quand on s'adapte aussi vite aux restrictions de liberté, je pense que ça peut aller
problème.
Très loin.
Il y a un problème. On est face à un problème.
Philippot et vous.
Que je veux dire, il y a deux vraies problématiques que je vais rajouter à la discussion. La première, c'est pour des mineurs qui ne sont pas décideurs eux-mêmes. Ils se retrouvent privés d'activité. On a vu les conséquences que ça a eu l'année passée.
Et le nombre de mineurs qui sont morts du Covid, c'est infinitésimal. Il y en a eu, sans comorbidité, il y en a déjà eu très peu, et avec comorbidité, il y a eu un cas, je crois, à moins de 18 ans.
Voilà. Et si nous tous, adultes, nous prenons la responsabilité de nous vacciner, nous ne prenons aucun risque. De toute façon, je ne vais pas me couper de mes relations avec mes enfants, quel que soit le risque. Mais je suis vacciné, je suis responsable.
Là, on est d'accord.
La deuxième limite qui fait que vous voyez des Français si bien s'adapter, et là, je pourrais vous dire à vous tous que vous êtes naïfs. Mais bien sûr, moi, je suis identifié, connu de tous. Je ne pourrais pas me balader chez moi, aller au restaurant avec un pass sanitaire qui n'est pas le mien. Mais Monsieur Dupont ou Monsieur Martin, s'ils ont le pass sanitaire, la feuille de, Monsieur Durand, qui peut contrôler leur identité? Personne. Ce qui fait que Monsieur Dupont et Monsieur Martin continuent d'aller au restaurant avec le pass de leur ami Monsieur Durand et que personne ne se rend compte de rien. C'est ça qui rend ça soutenable en termes de restriction de liberté pour le quart de la population qui ne remplit pas les conditions nécessaires.
Philippe Bilger réagit rapidement et on part au 0826 300.
Monsieur le député, est-ce qu'il n'y a pas là, et ne prenez pas ça mal, une sorte de perversion française que je comparerais par exemple à l'époque de la législation contre le terrorisme? C'est étrange comme en permanence, lorsque les causes sont légitimes, on voit d'abord les atteintes possibles aux libertés avant de valider ce qu'il fallait faire au regard de la légitimité de la cause. Est-ce que ça n'est pas la même chose pour le pass sanitaire?
Je ne tiendrai absolument pas le même discours vis-à-vis de la vaccination ou vis-à-vis des mesures barrières que je tiens vis-à-vis du pass sanitaire. Honnêtement, j'ai vu comment ça s'applique, notamment dans notre ruralité, etc. Là, les endroits où ça ne s'applique pas et qui sont des endroits beaucoup plus dangereux en termes de contamination, notamment dans les métropoles. Et honnêtement, j'ai des réticences de l'efficacité vraiment sur cette mesure, en plus des restrictions de liberté. Mais par contre, jamais je ne remettrai en cause le bénéfice statistique de la vaccination pour la plupart des gens et pour les populations fragiles, ou l'intérêt de poursuivre les gestes barrières pour limiter le plus possible la circulation du virus. Donc il faut faire la part des choses. Il ne s'agit pas d'être défiant vis-à-vis de la règle juste pour être défiant.
On part direction le Grand Sud, direction Béziers. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Vous voulez réagir? Est-ce que vous êtes favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été?
Alors, honnêtement, je vais vous dire non. Alors, pourquoi je ne suis pas du tout partisan de ce pass sanitaire jusqu'à l'été? Effectivement, comme disait monsieur le député tout à l'heure, il a entièrement raison. Il y a ce sujet de pouvoir avoir les échanges de pass sanitaire pour aller au restaurant. Ce qui montre qu'en définitive, il y a un flouage complet dans ce domaine-là. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, le pass sanitaire, il est restrictif, mais il est mal géré. Vous allez partir dans un pays, on va vous demander votre pass sanitaire. Vous allez aller dans un autre pays, on ne vous demande rien. Si Si vous y allez en avion, on va vous demander un certain nombre de contrôles, de type les tests PCR. Mais si vous ramenez en voiture, on vous demande rien. Donc, si vous voulez, il y a déjà une certaine incohérence. Prenez l'exemple, allez en Espagne, prenez l'avion et allez en voiture.
Oui.
OK?
Bon, bah, alors, si je vous coupe, vous n'êtes pas très loin de l'Espagne, à Béziers. J'ai des amis qui ont passé 4-5 fois la frontière espagnole en voiture, zéro contrôle.
Voilà, exactement. Et vous avez entièrement raison. Moi, je suis allé au salon de Barcelone en avion, je suis rentré en voiture. OK? Alors, en avion, on m'a demandé mon pédigré, on m'a demandé à peine si je n'avais pas le, vous savez, la marque dans le dos avec le signe diabétique. Et par contre, en voiture, on ne nous a non seulement rien demandé, mais on nous a laissé passer, la douane, rien du tout. Donc, si vous voulez, il y a une incohérence complète dans ce domaine de contrôle qu'on va donner aux gens. Il faut se poser aussi une deuxième question. Est-ce que réellement la police a pour mission d'aller faire le contrôle de ces documents? Les restaurateurs ne sont pas policiers, donc ils ne peuvent pas vous exiger votre identité. Comme il y a un de mes députés tout à l'heure, il a entièrement raison. Bah, vous venez avec un document. C'est le vôtre, c'est pas le vôtre, on n'en sait rien. Bon, de toute façon, ce qui intéresse le restaurateur, c'est d'avoir prouvé qu'il a contrôlé. Est-ce que vous avez déjà vu des policiers rentrer dans des restaurants, et des restaurants assez classés, pour aller vérifier l'identité des gens?
Alors, je vais vous dire une chose. J'ai déjeuné dans un restaurant pas très loin de Sud Radio la semaine dernière. Alors, c'est pas un restaurant étoilé, mais c'est un bon restaurant. Il a été contrôlé deux fois par les policiers qui sont rentrés, qui ont demandé les passes sanitaires et les papiers des clients pour voir si c'était bien le même nom. Je vous le dis, ça s'est passé à 5 minutes de Sud Radio. J'y ai déjeuné, je peux me dire, avec deux personnes qu'on connaît bien sur Sud Radio, Jean-Marie Bordry qui fait le Grand Matin Week-end, et Bruno Dubois, notre directeur d'antenne. Voyez un peu.
Allez chez Lucas Carton.
Ils sont pas ces choses.
Les passes. D'accord. Allez chez Lucas Carton. Allez à la Tour d'Argent et allez demander. Voyons, soyons sérieux. Vous voyez qu'il y a en plus, des règles qui sont données, des exigences qui sont données à la police. Et la police a déjà du mal à faire son travail. Et maintenant, vous leur demandez de faire un travail supplémentaire où vous ne leur donnez absolument pas les moyens. Donc il y a quelque chose de complètement incohérent. Je crois qu'il faut se poser d'autres questions. D'abord, premièrement, sur la vaccination, sur le type de vaccination qu'il y a à faire, sur le type de vaccin, qui fait la vaccination, comment on vérifie qu'effectivement la vaccination est cohérente et a été faite, avant de passer des passes sanitaires, parce que passe sanitaire, moi j'ai fait mes trois vaccins, pour être clair, hein. J'ai 66 ans, hein, okay, pour être clair. J'ai fait mes trois vaccins, bon bah on m'a donné un passe sanitaire pour les deux vaccins, maintenant on est en train de leur faire encore un document passe sanitaire sur les trois vaccins. Je veux dire, qui est-ce qui paye toute cette structure administrative derrière?
Christian, on va faire réagir monsieur le député, il nous reste plus beaucoup de temps, merci beaucoup, en plus la ligne est plus très audible. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Di Filippo? Toutes les remarques de Christian sont très justes, alors lui il est à Béziers, vous êtes député de Moselle. En Moselle, il y a beaucoup de gens qui vont travailler tous les jours au Luxembourg, par exemple, ou en Allemagne, ou en Belgique. En Belgique, c'est plus trop la Moselle, je crois, c'est la Meurthe-et-Moselle. Mais au Luxembourg et en Allemagne, comment ça se passe? On contrôle pas les tests et les passes sanitaires chaque matin, chaque soir à la frontière?
Non, ce sont des contrôles aléatoires. Comme d'habitude, il y a toujours une asymétrie et forcément une porosité. On ne peut pas empêcher les gens d'aller travailler. Fut un temps où ils ont exigé des tests à la frontière. Au début d'année, ça a duré ce que ça a duré. C'était très, très contraignant. Et à chaque fois, eh bien, c'est l'argent public et la puissance publique française qui avait pris en charge ce test à la frontière pour les travailleurs français. Donc là où je le rejoins, c'est qu'il y a une gabegie. On rajoute des moyens aux moyens, alors qu'on sait très bien qu'il y a cette porosité inévitable entre les écosystèmes économiques et sociaux quand on vit comme nous dans des zones frontalières. Ça, c'est sûr et certain. Et ça diminue encore l'efficacité de ce passe sanitaire et dans des régions frontalières comme les nôtres. Mais si vous aviez parlé de Roissy ou de la région parisienne, je crois que c'est peut-être même encore plus important.
Alors, je voudrais vous poser une question très politique. C'est un député de la majorité qui m'a dit en off que ce serait peut-être beaucoup moins facile pour eux de le voter parce qu'ils pensent à leur réélection dans quelques mois. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez entendu des bruits comme ça?
À vrai dire, non. Moi, je sais que j'ai été sur cette ligne-là quand c'était le plus dur. L'été dernier, quand il fallait absolument prendre des mesures sanitaires, j'étais déjà sur cette ligne-là. Je pense que c'est un mauvais calcul politiquement de toujours changer de ligne. C'est ça qui risque de leur coûter très très cher parce que leur attitude n'a jamais été lisible aux yeux des gens pendant ce quinquennat. C'est de ça qu'ils devraient se soucier.
Et je voudrais vous poser une autre question. Le Conseil constitutionnel a dit au mois d'août dernier que c'était 15 novembre, mais pas après. Est-ce que vous ne pensez pas que le Conseil constitutionnel ne peut pas valider une prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été?
on peut toujours trouver des arguments pour dire que la situation sanitaire le légitime. Il y a un amendement, et il a été introduit par un membre de la majorité, qui dit si le taux d'incidence est sous les 50...
C'est pas comme Rupin, député de Paris.
On ne peut pas, voilà, on ne peut pas appliquer le pass sanitaire. Eh bien, je sais que la majorité mobilise beaucoup, beaucoup pour revenir sur cet amendement. C'était peut-être la chose la plus intelligente qu'ils avaient à mettre dans le texte pour faire passer la pilule.
Très court, Corinne Tapiro, très très court.
Avec une telle mesure, ça veut dire que nos concitoyens vont être prévenus par voie de presse que le pass sanitaire ne s'applique pas aujourd'hui, s'appliquera dans une semaine. Ah bah, c'est un peu compliqué quand même, comme gestion, oui, hein, je trouve. Hein, quand même.
C'est comme le chèque carburant à venir. Très court, Fabien Di Filippo.
Eh bien, en tout cas, on pourrait le lever dès aujourd'hui dans la quasi-totalité des départements de France. Et on a bien vu, quand il y avait des seuils et de la territorialisation, que c'est les préfectures qui s'occupaient de ça.
Merci beaucoup Fabien Di Filippo, député LR de Moselle. Verdict sur Twitter, êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été? Vous êtes 4,1% à dire oui. Vous aimez le jeu des 7 familles, les vraies voix? Oui. Eh bien, on va parler d'un jeu des 7 familles très original avec Philippe Rossi dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro et Michel Pouzol. Et mon cher Philippe Rossi, un Montpellierain a inventé un jeu des 7 familles pour s'amuser avec le Covid.
Eh oui, c'est l'histoire de Christophe Pujol et Monsieur K. L'un est comédien, Christophe Pujol, Monsieur K, dessinateur de bande dessinée. Et c'est durant le confinement qu'ils ont eu l'idée de ce jeu des 7 familles bien particulier, puisque c'est un jeu des 7 familles pour s'amuser contre le Covid. L'un des créateurs du jeu est avec nous, c'est Christophe Pujol, le comédien. Bonsoir Christophe.
Et bonsoir Philippe.
Bonsoir à vous. Radio. Je vous présente Philippe bonsoir. David, Philippe Bilger, Corinne Tapiro, Michel Pouzol. Alors, racontez-nous d'abord ce jeu des 7 familles un petit peu particulier. C'est une sorte de parodie du jeu des 7 familles, c'est ça, avec pour thème le Covid. On est bien d'accord?
Exactement. Oui, on est parti de là. On est des dessinateurs à la base, des satiristes qui officient dans des journaux satiriques. Et on a pris, il y a un an de cela, le jeu du 7 des 7 familles, qui est un jeu libre de droit et qui est un jeu que tout le monde connaît, pour y coller dessus notre humour en fonction.
Mais comment l'idée vous est venue? Comment l'idée vous est venue? J'imagine qu'il y a dû y avoir un déclic.
Ah ben l'idée, on est en plein
confinement. Oui, mais pourquoi le jeu des 7 familles?
Ah, pourquoi des jeux des 7 familles? Parce qu'on avait envie de parler des familles. Les familles, on avait les jeunes, on avait le père, la mère, on avait les aïeux. Et on se rendait compte qu'on était tous touchés différemment par la situation du virus pendant cette période-là. Et ça nous a permis d'avoir de pouvoir taper un peu partout, sur les jeunes, sur les moins jeunes.
Dans ce jeu des 7 familles, vous allez nous les citer. Tiens, il y a la famille Flipette, par exemple.
Il y a la famille Flipette.
Ceux qui ont peur de tout. Ouais.
Eux, c'est les gros flippés. On les a mis à la campagne parce qu'on a fait des catégories un peu socio-économiques. On s'est amusé à essayer de représenter plusieurs choses à la fois. Et eux sont carrément flippés. Ouais. Eux, c'est ceux qui étaient dans la terreur, qui vivaient la panique pendant le Covid, on va dire, ou pendant la.
J'ai à côté de moi Michel Pouzol Flipette, qui se reconnaît bien dans cette famille.
Alors, on est d'un peu flippés.
Voilà. Quelles sont les autres familles? Parce que c'est très drôle.
On a les rien à foutre. Alors, les rien à foutre, c'est ceux qui en ont carrément rien à faire. Des gestes barrières, de tout ce qu'on disait, etc. Et qu'on peut retrouver aussi dans d'autres types de comportements qu'on a vus pendant le Covid. C'est illustré par certaines cartes. On a les lèche-coups, qui se prononcent lèche-coups. Et qui, eux, sont ceux qui appliquent à l'extrême les consignes. Donc, il faut dire qu'ils sont un petit peu flippés quelque part, mais eux, c'est le comportement. On suit tout ce qu'on nous dit, etc. etc. Bon. On a les profitomax qui ont profité de la crise. On a les macabres. Eux, c'est terrible. C'est carrément la famille Adams. Et on a les Le Bon Côté, qui sont plus la famille un peu positive, un petit peu, on va dire, comment dire, bobo, en quelque sorte, urbain. On les a mis vachement en centre-ville, qui ont trouvé que c'était génial, notamment le confinement, et voilà, qu'on trouve un côté positif à la situation.
Dans votre version du jeu, ce sont les mêmes règles que pour la version classique, à peu près.
Exactement, oui, c'est la même règle de base, sauf qu'on a rajouté deux cartes. On a rajouté une carte vaccin et une carte virus.
Eh oui, évidemment. Combien ça coûte, Christophe Pujol?
Alors, le prix est libre chez les commerçants, mais on le trouve entre 12 et 14 euros, je pense.
Voilà, donc
ouais, il sort le 23, donc il n'est pas encore vraiment. Il a déjà été vendu sous forme. Il y a eu une petite version de 200 exemplaires qui se vendait entre 12 et 13 euros. Et là, je pense qu'il va être entre 13 et 14, puisqu'on a lancé une fabrication plus grande et fabriquée en France cette fois-ci.
Très bien.
C'est le pas jeu... contagieux.
Non, c'est pas contagieux. Le jeu des 7 familles, donc, pour s'amuser avec le Covid. Et je rappelle, Christophe, que vous êtes avec votre acolyte, Monsieur K, en dédicace samedi pour présenter votre jeu. Chez Ludem à 14h, chez Excalibur à 16h, ce sont deux magasins qui se trouvent à Montpellier, rue de l'Ancien Courrier. Voilà, si vous y êtes, allez voir notre ami Christophe Pujol qui a eu une très bonne idée.
Très bonne idée, en plus très amusante, et ça vient du bien de s'amuser par les temps qui courent. Dans quelques instants, nos deux vraies voix du jour, Pierre en Vendée et Catherine à Paris, eh bien, ils veulent parler du pass sanitaire et du Covid. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix, Corinne Tapiero, élue LR de Paris 12 et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, est restée avec nous. Et Philippe Rossi également. Alors nos deux vraies voix du soir, c'est Pierre en Vendée, bonsoir.
Bonsoir.
Et Catherine à Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Pierre voulait nous parler, on va débattre avec Catherine parce qu'elle veut parler du Covid et du pass sanitaire sous un aspect un peu différent du vôtre. Vous avez probablement voté que vous êtes contre la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Pierre.
Oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis contre la prolongation du pass sanitaire. Déjà, je comprends même pas pourquoi avoir mis en place ce pass sanitaire quand on s'aperçoit que les gens qui sont vaccinés ont quand même besoin d'un pass sanitaire, et même pour prendre le TGV ou aller au restaurant, il faut aussi qu'ils aient un QR code à montrer. Et bon. Moi, depuis la mise en place de ce pass sanitaire, j'ai l'impression d'être un citoyen de seconde zone. J'avais cru pouvoir échapper aux mailles du filet en me faisant dépister de temps à autre. Et parce que je me suis aperçu, en plus, en discutant avec les gens, que tous ceux qui se sont fait vacciner, ce n'était pas parce qu'ils avaient peur du virus, c'est juste parce qu'ils voulaient continuer à vivre. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, comme je disais, moi, je passais des tests de temps à autre le jeudi ou le vendredi pour avoir un semblant de week-end, entre guillemets, normal. Et à présent que les tests ne sont plus remboursés, eh ben, je m'aperçois que ça va augmenter les discriminations. C'est-à-dire que ceux qui auront des moyens pourront continuer à passer des tests. Et les autres, soit ils acceptent de se faire vacciner, ce dont je ne souhaite pas du tout, ou alors rester chez eux à dépérir.
Alors, on va faire réagir Catherine de Paris. Vous êtes...
Je vois rouge, j'entends rouge, je vois rouge, là, vraiment, complètement. Je vais vous citer mon exemple, il est tout bête. Je me suis fait vacciner, j'ai eu les deux injections, et j'ai gardé, il y a 3 semaines, mon petit-fils de 5 ans. Et 3 jours après, j'étais très mal, fièvre de cheval et tout. J'ai été me faire tester, j'étais positive. Ok. Mon petit-fils était porteur sain, totalement atypique. J'ai été voir mon généraliste qui m'a dit tous les gens vaccinés qui l'ont quand même chopé, je n'en ai pas un seul qui s'est retrouvé à l'hôpital. Voilà, c'est tout. Donc, je suis pour le vaccin, je suis contre les tests gratuits. Contre les tests gratuits comme ce monsieur pour qui c'est un confort d'aller se faire tester 2 fois par semaine, mais le confort, il a un coût pour la société. Et c'est inadmissible de ne pas aller se faire vacciner. Voilà, c'est
mais
ça mon point.
Mais excusez-moi, je vais donner la parole aux autres vraies voix. Votre petit-fils, il a 5 ans, il n'est pas vacciné. Quel intérêt de vacciner des enfants, des préados de 13-14 ans ?
Il est dans une fratrie de 3 enfants, 12, 9, 5. Celui de 12 ans est vacciné, ne l'a pas eu. Celui de 9 ans ne l'a pas attrapé. Et lui, il l'avait parce qu'il l'a chopé à la maternelle, où beaucoup de parents n'osent pas déclarer leurs enfants cas contact, parce que c'est vrai, ils ne savent plus comment faire pour les faire garder.
On va faire réagir les vraies voix. Tiens, Philippe Rossi.
Alors, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Vous n'avez pas remarqué quand même que depuis quelques semaines, alors même si Gabriel Attal a dit ce matin que ça repartait un tout petit peu, c'est vrai que depuis quelques semaines quand même, on est relativement tranquille au niveau de l'épidémie du Covid, vous l'avez remarqué quand même. Les hospitalisations, les contaminations, il n'y en a plus trop. J'entends même des gens qui disent on n'entend plus parler du Covid. C'est vrai, mais ça c'est grâce à la vaccination tout simplement. Vous ne pensez pas ?
Sincèrement, je vais vous dire, Pierre. Ça c'est ce qu'on veut vous faire croire. On veut vous faire croire.
Mais non, les chiffres, on a des chiffres, on a des chiffres. On nous ment pas sur les chiffres.
Chacun son tour, Pierre.
Déjà, je souhaitais réagir. Si vraiment son vaccin, ces deux doses avaient été si efficaces, je comprends même pas comment cette dame a pu être malade. Normalement, elle aurait dû être super protégée. Ne pensez-vous pas ? Alors, peut-être que madame...
Alors ça c'est vrai qu'on a appris hier la mort de Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain à 84 ans. Il avait eu deux doses de vaccin, il est décédé. C'est vrai aussi.
Oui, mais on ne connaît pas les pathologies qu'avait aussi Colin Powell. Non, je suis d'accord. On ne connaît pas toujours son état de santé, mais on n'a pas dit que le vaccin a empêché d'être contaminé. On a juste dit qu'il a réduisé le pourcentage de contamination et surtout qu'il empêchait les formes graves.
Corinne Tapiron, on va faire réagir Corinne Tapiron.
Si ça se trouve, vous n'auriez pas eu plus de symptômes, madame.
Alors,
Corinne Tapiron.
La réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les enfants sont porteurs sains, qu'on peut l'attraper, tout comme on peut être vacciné contre la grippe et attraper la grippe. Hein. Ça, c'est pas une science exacte.
Quand on est vacciné contre le tétanos, en général, on ne prend pas le tétanos.
Non, mais parce que ce n'est pas les mêmes maladies. Et quand on est vacciné contre la variole, on l'attrape pas parce que c'est pas les mêmes maladies.
Il n'y a pas de variant du tétanos
et il n'y a pas de variant de la diphtérie. Donc moi, ce que je vois quand même, c'est que cette crise pandémique, elle a été associée au mot quoi qu'il en coûte. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, je vais voir combien nous a coûté cette crise pandémique au niveau des caisses primaires d'assurance maladie, parce que c'était une rengaine avec le déficit abyssal des caisses primaires, enfin de la sécurité sociale. On replonge dedans, là. Alors, moi, je comprends que les gens ne veuillent pas se faire vacciner. Je comprends moins le besoin de gratuité permanente des tests et de cet état-providence dont on conteste les décisions, mais dont on voudrait récupérer les avantages. Et c'est vraiment pas une critique, parce que je comprends ceux qui veulent se faire vacciner, pas vacciner. J'ai pas de problème avec ça.
Parce qu'on a été habitué à tout se faire rembourser
On est habitué à ce que... Alors, on est la génération du « j'ai bien le droit ». En fait, c'est ça. Et le fait d'être dans cette génération du « j'ai bien le droit » fait qu'on oublie peut-être aussi un peu le sens commun, parfois.
Mais alors, justement, Catherine, vous êtes pour le pass sanitaire, mais on va parler, justement, parce que je n'avais pas pensé à en parler, du quoi qu'il en coûte, la facture où on a fermé les restaurants pendant des mois avec les gens payés par l'argent du contribuable. Alors, il n'y a pas eu que les restaurants. La facture, elle va être colossale et elle va tomber, bien évidemment, après la présidentielle de 2022.
Ben oui, mais ça c'est logique, c'est toujours comme ça, vous le savez bien. Ça c'est pas différent des autres, c'est pareil, tout ça c'est tout pareil. Moi ce que je veux dire, il faudrait quand même que les Français comprennent qu'ils ont des droits, mais ils ont des devoirs, et le devoir actuellement en tant que citoyen français, c'est d'aller se faire vacciner pour essayer de sortir le pays de ce truc qui est une belle vacherie pour tout le corps médical, pour les hôpitaux. Moi, j'ai besoin d'une prothèse au genou, je ne peux pas avoir de place avant la mi-janvier. Tout est plein à cause du retard accumulé, à cause du Covid. Voilà, encore un exemple. Voilà, c'est tout. Donc, on a un devoir de citoyen. Pourquoi est-ce que les gens acceptent de se faire vacciner contre la polio ? Eh bien alors, dans ce cas-là, c'est pareil, hein.
Les Français ont peur. Les Français ont peur. Enfin, et ça, on peut les comprendre. C'est vrai qu'on a trouvé le vaccin en un an et beaucoup.
On en a trouvé six en un an.
Six en un an.
Ça veut dire qu'il y a quand même des grands progrès de la médecine par rapport à l'époque de la polio. Enfin, on peut pas nier les progrès de la science. On peut pas nier les progrès de la recherche qui ont été faits dans différents domaines. Et ce vaccin ARN qu'on critique beaucoup, c'est un vaccin qui est ancien. Il vient pas de sortir.
Ah non, c'est pas ancien. Il est sorti il y a un an à peine.
Non. L'ARN, c'est une technologie...
Non, mais on n'avait pas de vaccin ARN, c'est le premier vaccin ARN. On travaille l'ARN messager depuis les années 60,
voilà,
mais on n'a pas fait de vaccin ARN messager.
C'est le premier.
Voilà. Ouais. C'est le premier qui a un an.
Mais l'ARN, c'est une technologie qu'on connaît. Donc, je veux dire, il faut aussi saluer les progrès de la science et se dire qu'on a finalement de la chance d'avoir... des scientifiques qui arrivent à de telles prouesses.
Mais alors, le pass sanitaire qu'on veut imposer partout, y compris, alors Jean-Baptiste Lemoyne le disait tout à l'heure sur Sud Radio, a priori, possiblement, sur les remontées mécaniques. Catherine, vous êtes pour le pass sanitaire, est-ce que ça va pas un peu loin ? Parce que les remontées mécaniques, c'est quand même pas l'endroit où on se contamine le plus, non ?
Non, mais c'est pas ça avec les gants, les trucs, c'est d'un
coup. Ça dépend du type de remontée mécanique. Vous avez les œufs. Les œufs où vous êtes à quatre dans un petit espace où vous transpirez.
Enfin, c'est pas trois heures,
c'est un peu confiné.
Bon, entre l'écharpe, le passe-montagne.
Les tire-fesses et les télésièges,
on a l'air libre.
Ventilé, voilà. Les tire-fesses et les télésièges, c'est ventilé. Les
ça, c'est très ventilé.
Les œufs, ça l'est un petit peu moins, quoi. Mais bah, qu'ils mettent un masque sur la tête et sur la figure. Et puis c'est tout, quoi. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Mais si on n'a plus la vie, on n'a plus rien.
Voilà. Pierre, je vais vous poser une question très indiscrète. Vous me répondez pas, si vous voulez. Vous avez quel âge ?
53 ans.
53 ans. Vous avez personne qui a été touché par le Covid dans votre entourage ?
Alors, je vais vous dire, non seulement j'ai personne qui a été touché par le Covid, les seules personnes que j'ai connues de malades, c'est des gens qui ont été vaccinés, qui ont développé des effets secondaires assez graves. Ça, on n'en parle pas du tout. On ne cherche même pas à savoir combien que ça va coûter à la Sécu. D'ailleurs, quand on va voir son médecin, si on a des effets secondaires, on vous dit que c'est une pure coïncidence. Et il y a également quelque chose, moi, qui me choque profondément, c'est que on oublie de parler que c'est l'argent des contribuables qui a financé finalement cette vaste campagne d'injection expérimentale.
Ah bah oui, c'est la sécurité sociale qui a payé, évidemment.
Hein. Voilà, qui a payé. Alors, je pense que ça a coûté beaucoup plus cher que les gens qui vont se faire dépister de temps à autre pour pouvoir vivre comme les autres. Je pense sincèrement. On oublie de dire qu'il y a des gens, et d'ailleurs, les députés, j'ai l'impression que les députés, eux, vont dans le même sens que Macron et toute son équipe, parce qu'ils veulent surtout garder leur place au chaud. Donc à tout moment, personne ne dira, ne critiquera ce qui se passe.
Pierre, je voulais dire une chose. Je l'ai dit dans la deuxième partie des Vraies Voix. Moi, c'est un député de la majorité qui me l'a dit évidemment off que le vote du pass sanitaire à quelques mois des législatives par la majorité est loin d'être acquis. Je le dis.
Ah bon ? Voilà. Bon, on verra.
Non, mais ça m'a été dit off. Après, bon, okay. S'ils ont des pressions à l'Assemblée nationale, je ne suis pas responsable, mon cher Philippe.
Sur les effets secondaires, vous prenez n'importe quel médicament et le Doliprane, par exemple. Vous lisez la partie effets secondaires, il y en a des tonnes.
Tous les médicaments, le vaccin,
c'est normal qu'il y ait des effets secondaires. Et encore, sur les effets secondaires constatés, on n'est même pas sûr, il est trop tôt pour faire la relation entre le vaccin et la pathologie qui suit, évidemment. Donc on n'a pas le recul nécessaire pour prouver par A plus B que c'est dû au vaccin encore. Et encore, il y a peu de pathologies par rapport au nombre de la population vaccinée dans le monde.
Corinne.
Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait tellement... Ou alors, on n'en parle pas, parce que comme il y a quand même des théories du complot qui circulent, ça veut dire que si on ne le sait pas, c'est qu'on ne veut pas nous le dire, et qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit, mais moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il faut... Il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on sorte de cette situation de marasme. Mais je pense à ces gens qui se font faire des PCR régulièrement pour continuer à vivre ce qu'ils appellent une vie normale. Il est valable 72 heures, le PCR. Enfin,
oui. Ça fait deux fois par semaine. Ça fait 50 euros par semaine.
Si on n'a pas les moyens.
C'est
même pas que le prix, mais enfin, c'est parfaitement désagréable, ce PCR.
C'est pas le truc le plus agréable. Il nous reste à peine 3 minutes. Je vais vous poser la question, les vraies voix du jour, Pierre et Catherine, qu'on a posée au député Fabien Di Filippo tout à l'heure. Est-ce qu'à votre avis, je l'ai évoqué là il y a 2 minutes, est-ce qu'à votre avis, le pass sanitaire va être prolongé jusqu'à l'été, Pierre?
Eh ben, je pense que il y a un dilemme là où le président en place à la fois aimerait le prolonger pour justifier l'obligation de se vacciner, même s'il ne parle pas d'obligation. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il aimerait bien être élu. Alors je ne sais pas encore ce qu'il va faire. Toujours est-il, c'est que, en attendant, je pense pas que ce soit les gens qui passent des tests PCR pour pouvoir avoir un semblant de vie qui ruinent la vécu. Hein, je pense pas. Hein.
Donc Pierre, pour le moment, vous êtes dans la catégorie de ce qu'on appelle les NSP, ne se prononce pas. C'est ça.
Je me prononce pas parce que on entend tout et son contraire depuis les premières annonces d'Emmanuel Macron. Donc on ne sait pas encore ce qui va être décidé.
Catherine,
que les Français majoritairement sont des bons citoyens et suivent bêtement le mouvement qu'on leur impose. Donc peut-être qu'il va prolonger le pass malgré tout.
On va faire réagir Catherine. Pour vous, ça va durer jusqu'au 31 juillet ou pas? Le Parlement va le prolonger?
Je peux pas savoir, je suis pas au Parlement, donc ça je ne peux pas savoir. Mais je pense qu'on peut être un bon citoyen sans être bête pour autant.
Philippe Rossi, non,
je voulais répondre à notre auditeur. Pierre, il pense à ses réélections Emmanuel Macron, mais le pass sanitaire, pour le moment, ça ne l'empêche pas d'être haut dans les sondages.
Oui. Au chef de l'État. Vous savez, on dit souvent que les sondages, c'est pas. Oui, Balladur était très haut dans les sondages.
Mois, l'élection, ouais. Je veux dire, les pour sondages vous, sont à prendre avec des
pour vous, Philippe Rossi, le Parlement va voter ou pas le
oui, bah oui, écoutez, oui, techniquement, je pense que les députés En Marche vont.
Mais je vous rappelle quand même que.
Ils vont tous être présents, non?
Non seulement ils vont être présents, mais je vous rappelle quand même que les députés En Marche ont signé un papier complètement surréaliste et qui va complètement à l'encontre de la Constitution de 58, c'est qu'ils ont voté, ils ont signé un papier comme quoi ils auraient une discipline de vote exemplaire tout au long de la mandature, je vous rappelle.
Ouais. De présence ou de... c'est pas pareil.
Discipline de vote.
Alors écoutez, merci beaucoup Pierre de Vendée, Catherine de Paris, d'avoir été nos vraies voix du jour. Maintenant, ça se passe avec vous, mon cher
Exactement,
Philippe.
Exactement, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de l'emploi dans quelques instants. Sachez qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont du mal à recruter, le bâtiment, évidemment, l'hôtellerie, la restauration, mais il y a un secteur qui peine à convaincre, surtout depuis la crise du Covid, c'est le secteur de la coiffure. Peu de candidats.
Je suis pas trop concerné,
ça va. On sera avec Christophe Doré, le président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, qui nous expliquera tout dans quelques instants. Emmanuel Lafond, le fondateur du cabinet de conseil Sparter H, et l'entrepreneur fondateur de la plateforme Wheezy, Julien Lozano, dans quelques instants. Pour les voies de l'emploi, mais dans l'immédiat, et comme chaque soir, on parle de votre patrimoine sur Sud Radio. C'est avec Stéphane Moller. Voici Conseil de famille.